Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Moi c'est Hugo, je suis avec Maxime.
Salut.
Et je suis aussi avec Exerve.
Hello.
Ça y est messieurs, on y est, on a passé le palier, le palier dont on parle depuis si longtemps sur Patreon.
Oh mon Dieu.
Ça y est, on vient de le faire et voilà, c'est un moment quasi historique pour l'émission, je pense qu'on peut le dire, on peut le dire comme ça. Non mais voilà, plus sérieusement, c'est super cool de se dire que allez, un peu plus d'un an après qu'on ait lancé le Patreon, parce que j'ai regardé, c'était fin mars 2019, et du coup un peu plus d'un an, bah voilà, on a passé ce stade-là qui va nous permettre, alors c'est ce qu'on avait un petit peu promis à la base, de parler de jeux un peu plus ambitieux, enfin pas plus ambitieux, mais de plus gros jeux, ou même parfois pouvoir aborder un petit peu des sagas. Alors je sais pas si on va le faire, je sais pas quand c'est que ça va vraiment démarrer, quand c'est qu'on va pouvoir assumer notamment la fameuse promesse hein, de faire Nier Automata, ça c'est ce que les gens attendent.
Ah bah de toute façon oui, tout le monde l'a donné, donne des sous uniquement pour ça. Hein. C'est vrai que régulièrement sur le Discord, tu sais, ça repop, genre ah, tu sais, à chaque fois que, comme toutes les deux semaines, on redonne un nouvel épisode, enfin le nouveau nom du prochain jeu dont on parlera, ouais. Enfin en tout cas de deux jeux en avance. À chaque fois, il y a des gens qui disent peut-être, mais voilà. Donc ça arrivera, c'est sûr. Hein, maintenant, on va être obligé de le faire. Ça va être un gros morceau. En fait, l'intérêt de dire pourquoi on avait mis des paliers, c'est parce que y a des jeux qui vont nous prendre pas mal de temps. Moi, je vais commencer des jeux. On en parlera peut-être que dans 4 ou 5 mois.
Ouais.
Mais du coup, voilà, je peux me dire, c'est pas grave, je peux prendre du temps parce que on touche des sous à chaque épisode. Et ce temps que je ne consacre pas à une autre de mes 5 ou 6 activités, au moins je peux le consacrer pour Fin du Game, j'en suis sûr, ça va bien se passer quoi.
De toute façon, on avait déjà parlé de gros jeux comme ça. Il y avait Breath of the Wild, il y a eu The Witcher 3 la dernière fois. Mais voilà, parce que c'est des jeux qu'on avait plus ou moins déjà fait. Donc, on avait déjà cette matière première qui était, voilà, cette base de travail qui était déjà là. Mais pour d'autres jeux, c'est pas toujours le cas. C'est parfois une, deux ou même trois personnes de l'équipe qui doivent faire le jeu pour l'émission. Et forcément, ça nous demande de nous projeter différemment. Et c'est vraiment pour ça que le Patreon est là. Et c'est pour ça qu'on est super content d'avoir atteint ce palier, parce qu'on va pouvoir se permettre plus de choses avec un petit peu plus de sérénité. Voilà, encore une fois, merci énormément à toutes les personnes qui nous ont rejoints sur le Patreon, sachant que voilà, ce n'est pas fini. Il y a encore d'autres objectifs. Hein.
Ah bah,
on peut aller encore plus loin.
On a mis des objectifs jusqu'à la fin des temps. Hein. On peut continuer. Non, mais là, vous voyez, c'est toujours rigolo de ramener ça à un truc très numérique, parce que c'est 255 personnes au moment où on enregistre l'émission.
Ouais.
Qui nous écoutent, il faudrait qu'on fasse une espèce de ratio par rapport au nombre total d'écoutes qu'on aurait eu. Je laisserai Max, notre expert en statistiques,
faire ce genre de chiffres. 255 qui nous soutiennent.
Oui, qui nous soutiennent sur le Patreon. Et tu te dis, voilà, il y a encore probablement un petit peu de marge, donc c'est quand même super encourageant pour la suite. Et de voir que l'émission vous parle autant, ça nous fait plaisir. Du coup, on a même prévu le planning des prochains mois. On s'est dit, allez, nouveau palier, on peut commencer à avoir sereinement 4-5 mois en avance même. Hein, on a quasiment prévu jusqu'à la fin de l'année. Donc, comme ça, nous, on sait, tiens, toi, Hugo, tu dois faire tel jeu. Moi, je dois faire tel jeu. Max, il faut qu'il achète un jeu. On se le prête, machin. On
fait notre petit planning. Donc, voilà, sachez-le, Nier Automata est dedans. Voilà, on vous dit pas quand c'est que ça arrivera, mais voilà, 2020, ce sera là. Et puis, il y aura aussi d'autres gros jeux. Hein. On a fait un beau planning, donc ça va être chouette. Et c'est vraiment grâce à vous, donc merci énormément. On remercie également Sœur d'édition, notre sponsor, qui nous suivent même pendant le confinement. Parce que je le rappelle aux gens qui nous écoutent dans le futur, nous sommes toujours confinés pour cause du Covid-19. Sœur d'édition, c'est la maison d'édition spécialisée dans les ouvrages consacrés aux jeux vidéo.
Mais pas que.
Mais pas que, même si pour ce qui nous concerne, ça va vraiment être du jeu vidéo. On peut parler éventuellement du livre sur Devolver, on en avait déjà parlé sur l'épisode consacré à Hotline Miami. Donc c'était quoi, c'est Business et Punk Attitude, c'est ça,
un truc comme ça, ouais.
Donc, livre qu'on vous recommande chaudement, hein, qui retrace un petit peu toute l'histoire de Devolver, leur stratégie, comment ils se sont placés un petit peu sur le marché du jeu vidéo indépendant. Et c'est donc eux qui ont édité Observation, le jeu dont il est question aujourd'hui. Et côté actu, c'est le livre sur Peter Molineux qui est sorti. Godus, Populous, Fable, tous ces merveilleux jeux auxquels je n'ai jamais joué de ma life.
Même pas Dungeon Keeper, ça te...
Rien, rien,
rien du tout.
Zelda, ah, ce mec là je ne le connais que de nom, j'ai jamais touché un jeu de Peter Molyneux.
C'est le genre de jeu à notre âge, en fait si t'avais pas un pote ou quelqu'un qui jouait,
ça
tu
y
vois,
ça y est,
dit,
ah,
bah, oui, Dungeon Keeper, moi j'ai pu jouer à Dungeon Keeper et Populous, mais juste parce que j'avais des potes qui avaient de la famille qui jouaient.
Non mais
tu
Fable
vois,
c'est assez récent.
Oui non, t'as raison Fable, mais pas de, j'avais pas de
Xbox. Il y a une dizaine, c'était quoi, il y a 10-12 ans Fable 2, Fable 3.
C'était une des grosses exclus de la Xbox, Xbox 360, et c'est vrai que bah voilà, comme j'étais pas quoi que si j'ai eu une Xbox 360 en plus, mais oui c'était peut-être pas voilà le RPG occidental.
Non mais voilà, tu vois Hugo, grâce à tous nos patriotes, hein, tu vas pouvoir découvrir tel ah, ben, jeu formidable.
Il va falloir inventer un palier là qui crève le ciel, je pense, pour jouer à Fable. C'est pas que c'est
chut,
nouveau,
Maxime,
quoi,
Maxime, mais... tu as vexé des gens, calmons-nous, calmons-nous.
Non, ah non mais en plus
Fable est peut-être dans le planning, on ne sait pas.
Par contre, blague à part, pour en avoir pas mal discuté avec Raphaël Lucas, qui est l'auteur donc, de ce bouquin, c'est assez improbable comme format, parce que c'est vraiment des dizaines d'heures d'interviews qu'il a réalisées avec lui sur plusieurs mois. Ils ont parlé de tonnes de choses. Enfin, c'est vraiment, il me racontait, quand on s'est croisés il y a quelques temps là sur Paris, il me disait qu'ils ont parlé de son enfance, de ses jeux, qu'il a intéressé, enfin, vraiment de toutes les étapes de sa carrière qui est assez improbable. Il a fait des tonnes et des tonnes de choses et voilà, ça fait un peu psychanalyse, tu vois, dans la tête
de Peter
Molyneux. Donc, si c'est un créateur ou on va dire un personnage de l'industrie qui vous intéresse, je pense que c'est un bouquin un peu unique pour le coup. Je suis pas sûr que ça soit le livre, tu vois, le plus sexy du catalogue de Ferd Edition, parce que c'est quand même assez particulier des interviews. Mais par contre, c'est sûr qu'il a une approche complètement unique là-dessus, quoi.
Donc voilà, vous pouvez évidemment retrouver ça sur le site de Ferd Edition ou via leur compte Twitter. Hein. C'est toujours très facile de retrouver toutes leurs infos sur leur compte Twitter puisqu'ils communiquent beaucoup. Et puis nous, on va pouvoir attaquer notre épisode. Donc je l'ai dit, c'est Observation qui va passer sous le scalpel, j'ai envie de dire, de l'équipe de Fin du Game, la fine analyse. Hein. Et Maxime, est-ce que t'as... Oui, t'as choisi la musique, on sait de ce qu'on va mettre.
Hein. Oui, bon, de toute façon, je le dis, c'est la musique d'intro. Hein. A priori, il n'y en a pas, comme je disais, moi je l'ai fait entre guillemets, à l'époque, le jeu, donc en mai, et je me souviens pas d'autres musiques hein, personnellement, mais
on en parlera, mais il y a un très gros travail quand même sur le sound design, mais c'est vrai que ce générique est très réussi. Moi, ça m'a fait vraiment penser à ce qu'il y a dans certains films de David Fincher, notamment Seven ou comment ça s'appelle,
Fight Club.
Puisque c'est un des mecs de Nine Inch Nails hein, qui a fait, je crois, le.
Oui, en fait, il a participé à la composition, un des guitaristes de Nine Inch Nails qui a bossé avec l'équipe pour réaliser le générique.
Et ben voilà, donc c'est parti pour un nouvel épisode juste après ça. Observation qui est donc sorti le 21 mai 2019, il est sorti sur PC via l'Epic Game Store, l'exclu va d'ailleurs pas tarder à se terminer puisque c'était un an d'exclu, donc vous pourrez retrouver ça sur Steam si vous n'avez pas encore fait le jeu et que vous prévoyez de l'acheter, si vous nous écoutez peut-être encore jusqu'ici, je ne sais pas s'il y a un tout petit pourcentage de la population qui nous écoute qui est dans ce cas-là. Il est sorti aussi sur PlayStation 4 comme c'est souvent le cas avec les exclus Epic Games. Ça a été édité par Devolver Devolver Digital, ça on l'a dit en intro, et c'est développé par No Code Studio, qui est un studio écossais. Et ce qui est assez amusant de noter, c'est que c'est le premier jeu, c'est le jeu pour lequel ils se sont lancés en indé en fait.
Et ils sont en indé depuis un petit moment, parce qu'ils ont sorti d'autres jeux du coup, comme tu le sous-entends. Eux de base, c'est des potes d'enfance qui ont eu des parcours un petit peu différents, mais ils ont bossé notamment sur Alien Isolation. Il y a John McKellan qui était UI artiste dessus, donc UI pour User Interface. Il designait un petit peu les interfaces. Il a bossé un petit peu sur différents aspects du jeu aussi. Mais
ouais,
c'est
il a fait
là-dessus.
Plusieurs choses. Ouais. Hein. Il était lead et si vous regardez son LinkedIn, effectivement, il le dit clairement qu'il a bossé sur plein de trucs. Et
il y a aussi Omar Khan qui lui est plus côté audio. Mais bref, donc John McKellan, lui, il a vraiment bossé les 4 ans du projet sur Alien Isolation. Puis après, il voulait retourner en Écosse, il a fait un petit passage par la case Rockstar, hein, parce que c'est un peu, j'imagine que c'est le plus gros studio que tu puisses trouver en Écosse. Et finalement, ils ont fondé donc No Code, comme tu le disais, avec le projet, l'idée de faire Observation. Surtout qu'ils avaient, ils ont pu importer beaucoup d'idées. On en reviendra plus tard. Hein, mais ils ont gardé un petit peu l'univers d'Alien Isolation. Ils en ont apporté pas mal dans.
Ouais,
dans
Observation. C'est ce que je me suis dit parce que quand j'ai vu cette information là que les deux mecs venaient de la team Alien Isolation, tu fais ah d'accord, ok, je comprends déjà un petit peu mieux d'où vient le projet parce que alors moi non plus j'y ai pas joué à Alien Isolation, mais du peu que j'en ai vu. La filiation est quand même très très évidente par rapport à ce que proposait Alien Isolation. C'était Creative Assembly, hein, le studio, pour info.
De Alien Isolation. Alien Isolation, ouais. Et du coup, alors on n'a pas tous les détails sur le pourquoi du comment, ça a pris du temps, on va apporter quelques éléments plus tard, mais en attendant, ce qu'ils ont pu faire, c'est des game jams, tout simplement. Donc ils ont pu sortir deux jeux mobiles, donc un qui avait plutôt bien marché, qui est sorti en 2016, qui s'appelle Super Arclight. Et ensuite, ils ont fait une autre game jam où ils ont fait The House Abandoned, qui était une espèce de jeu textuel, donc il y avait un écran d'ordinateur où on nous décrit des pièces, et nous, on va rentrer en input les actions qu'on voudrait y faire, et ensuite on progresse ou pas en fonction de la validité de ces propositions. C'était un petit carton, tu vois, dans le, entre guillemets, monde de la game jam, quoi, sur Itch.io, ça a plutôt bien marché. Du coup, ils en ont fait un jeu qui s'appelle Stories Untold, qui était... alors je vais pas trop revenir en détail dessus, c'est un jeu qui réserve pas mal de surprises, et je le conseille si vous regardez un petit peu sur YouTube et que c'est une ambiance qui vous parle, parce que c'est quand même un jeu de niche, vous pouvez le faire, mais ça reprend notamment ce chapitre de House Abandoned au début, donc aventure textuelle, et il y aura aussi un petit peu des puzzles avec des interfaces à décrypter, le tout sur ambiance parfois un petit peu oppressante, enfin bref, il y a déjà quelques éléments qu'on pourra retrouver dans Observation.
Et Stories Untold qui fonctionne bien pour eux puisque ils vont déjà avoir une récompense, alors ils vont avoir un BAFTA, c'est pas un BAFTA, un vrai BAFTA, c'est un Scottish BAFTA, hein, donc c'est les BAFTA écossais, et puis des bons retours quand même sur Metacritic. En fait, ils arrivent à se faire un petit peu leur nom, ils étaient déjà associés à Devolver Digital, hein,
il me semble, pour ce premier jeu.
Et du coup, c'est vrai que avec ce premier succès entre guillemets, je pense que ça leur a permis de prendre un peu confiance, de trouver un petit peu ce qu'ils voulaient faire, et du coup peut-être d'avoir plus facilement le feu vert pour Observation, qui était vraiment leur projet initial, vraiment le truc qui les faisait rêver, mais qui était peut-être trop compliqué à se lancer comme premier jeu. Voilà, on n'a pas trop les détails là-dessus, on n'a pas trop les infos.
Bah, de toute façon, quand on voit le jeu et le niveau de production avec des graphismes quand même qui tirent beaucoup vers le photoréaliste, tu sais tout de suite que c'est un projet qui a dû coûter assez cher, parce que même si le jeu ne dure que entre 6 et 9 heures selon que tu traînes un petit peu, ça coûte quand même assez cher à produire tout ça. Donc je pense vraiment, il y a une toute petite vidéo. Alors pour une fois, il n'y a pas de vidéo no clip, parce qu'ils n'ont pas encore eu le temps de nous couper l'herbe sous le pied. Mais par contre, Devolver avait fait une espèce de petit dev blog un peu décalé, comme ils aiment bien le faire, où ils boivent des bières et ils mangent des saucisses. Même pas d'ailleurs, ils mangent des wraps avec des pâtes à l'intérieur. Oui. J'ai trouvé ça absolument répugnant. Et je tenais à le dire.
C'est la Grande-Bretagne.
C'est l'Écosse. Je ne sais pas ce qui se passe.
Est-ce que c'est John Tyrell qui présente le truc ?
Oui, c'est la série Behind.
Qui était mon directeur de mémoire, hein, directeur de mémoire fin d'études. Ah, donc voilà, tellement je le salue.
Parce que si jamais vous voulez voir un petit peu, vous renseigner un peu sur les jeux Devolver, ils ont une série vidéo sur YouTube qui s'appelle Behind the Schemes, qui est du coup animée par John Tyrell, qui voyage et rencontre des devs de différents jeux Devolver.
Voilà.
Voilà, ouais. Mais c'est pas mal comme petit format, parce que comme il bosse pas techniquement pour Devolver, il a des questions qui sont réellement intéressantes, c'est pas forcément intéressé, purement orienté marketing. Bon, il y a évidemment le montage derrière, mais voilà, ça permet de comprendre un peu l'ambiance de ce petit studio no-code. J'ai trouvé ça assez rigolo, c'est plein de petits nuggets d'informations, tu vois, le fait que ça soit une entreprise très familiale, parce que John McKellen et Omar Khan, ils se connaissent depuis le lycée, mais ils sont aussi potes avec l'autre frère de John McKellen, qui a embauché sa femme, son autre frère, son beau-frère, son cousin, la mère d'Omar Khan bosse dans le studio, donc c'est vraiment...
C'est la mafia.
Ouais, c'est un peu une espèce de petite mafia écossaise assez rigolote, et ils bossent tous comme ça.
Et il y a aussi pas mal d'anciens, d'autres anciens d'Alien Isolation, hein, puisque je crois qu'il y a des voice actors, il y a des writers, il y a des character artists, donc des gens aussi qui avaient bossé chez Creative Assembly. Donc c'est, voilà, c'est vraiment un projet qui prolonge Alien Isolation.
Bah oui, parce que tu sens que forcément, quand ils bossent comme ça sur des gros jeux, ça leur permet de se faire un gros carnet d'adresses, de toucher justement des domaines du jeu vidéo qui sont peut-être plus difficilement accessibles pour des studios indépendants. Les voice actors, ça paraît pas, mais ça coûte quand même assez cher. C'est pas tous les studios qui peuvent se le permettre. Souvent, tu vas faire appel à des amis ou des gens que tu connais ou que tu suis sur Twitter et tu vas leur envoyer des petits messages. Là, ils avaient en fait tout simplement accès à une espèce de catalogue d'acteurs et d'actrices qu'ils aimaient bien. Ils savaient typiquement la voix de Sam, qui est l'intelligence artificielle qu'on incarne, il savait exactement John McKellen qui il voulait pour ce rôle-là, et il lui a demandé, et ça a pu se faire. Donc voilà, je pense que ce que je voulais dire tout à l'heure, parce que je me suis perdu avec les histoires de pâtes et de wrap, c'est qu'on sent dans ce petit docu que l'argent a clairement été un problème, et un truc qui est clair, c'est que quand le jeu est sorti donc sur l'Epic Game Store, en même temps Stories Untold était offert, et ce que les gens savent peut-être pas qui nous écoutent, c'est qu'un jeu offert sur Epic Games, ça sous-entend instantanément un petit chèque de entre 300 et 500, voire plus, 1000 milliers d'euros, ou de dollars plutôt, au studio en question, qui offre, en fait, entre guillemets, qui n'offre pas son jeu, il vend, en fait, un certain nombre de clés, et Epic Games les rémunère grassement pour ça. Plus l'exclusivité d'un an, qui se négocie aussi en centaines de milliers de dollars, je pense qu'ils ont touché un peu plus d'un million, tu vois, vraiment à la louche, je peux faire une estimation au doigt mouillé, ça me choquerait pas que ça soit ce genre de somme-là, et que ça soit ça, la promesse de cette exclu et de cette offre avec Epic Game Store qui est décidé d'Evolver à greenlight le projet, quoi.
Oui, voilà, on le disait tout à l'heure, on n'a pas tous les détails de ça. Moi, j'imagine que c'est vraiment l'exclu Epic qui a fait la différence pour pouvoir sortir un jeu comme Observation qui a dû coûter assez cher, puisque, à ma connaissance, c'est le seul jeu d'Evolver qui a été en exclu Epic Games. Et là, ils sont, je crois, sur Observation, ils sont une grosse dizaine, il y avait pas mal de moyens engagés, donc ouais, je pense que c'est la raison.
Oui, et puis surtout, voilà, observation, tu parlais de voice acting tout à l'heure, qui est quelque chose auquel les développeurs indés ont assez rarement accès. Là, c'est un jeu, de toute façon, qui avait vraiment des ambitions de se placer un petit peu dans l'entre-deux, c'est-à-dire de ressembler un petit peu à un AAA, mais en même temps d'avoir la flexibilité et le scope d'un jeu indé. C'est ce qu'ils disent, ils le disent texto sur leur site. Et c'est vrai que, déjà, il y a un autre choix qui est assez inédit pour des développeurs indépendants, c'est de partir sur du photoréalisme, de choisir de modéliser des personnages selon, vraiment en respectant la physionomie, etc. Et du coup, ça, c'est vraiment un gros challenge pour une toute petite équipe, parce qu'elles n'ont pas les ressources ni humaines ni financières pour pouvoir arriver à un niveau... qui va se coller au standard du AAA. C'est-à-dire que, je sais pas, on prend des studios comme Quantic Dream, ils ont un maxi studio de motion capture et tout, qui est tout fait pour pouvoir modéliser, pour pouvoir avoir quelque chose qui a un rendu très propre. Là, clairement, chez No Code, c'était pas du tout la même chose. Et pour pouvoir atteindre cette ambition-là, pour pouvoir arriver à ce niveau-là, même si je pense qu'on peut le dire dès maintenant, c'est pas toujours réussi, hein. On sent justement que le challenge est compliqué, parce qu'il y a des moments où les animations faciales, elles tombent un petit peu en dessous de ce qu'on peut attendre, mais voilà, ils ont dû faire des trucs un peu do it yourself. Il y a plein d'anecdotes qui racontent, déjà il y a des choix un petit peu malins qui ont été faits, que beaucoup de conversations ne sont pas filmées, c'est-à-dire qu'on peut pas voir les visages des personnages pendant qu'ils parlent, parce que du coup ça permet d'éviter de faire des animations faciales. Ensuite, quand ils ont dû faire de la motion capture, ils ont pas un maxi studio comme Quantic Dream, du coup ils ont fait un truc avec une GoPro, hein, c'est ça, Max?
Oui, c'est ça, en fait, parce que pour bien animer facialement, idéalement tu fais lire les lignes à la voice actrice et tu filmes son visage pour pouvoir coordonner un petit peu le tout une fois que tu reproduis ça. Et là, comme ils ont pas de studio mais que des indés peuvent le faire, ce que les indés font, ce qu'ils devraient faire entre guillemets, c'est louer des studios, du coup, de mocap ou de facial capture. Ils ont comme ils réécrivent des lignes, en fait, vraiment constamment, et parfois un peu avant la sortie du jeu, bah, tu peux pas, en fait, tout le temps louer un studio à chaque fois, parce que bah, t'as pas les moyens, t'as pas le temps de le faire. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un casque de VR qu'ils ont tourné à 180 degrés, ils ont imprimé en 3D une espèce d'arc en plastique pour faire tenir une GoPro de l'autre côté, qui puisse, du coup, filmer le visage constamment de la voice actrice qui fait Emma Fisher, et bah, du coup, voilà, pour qu'ils puissent, en fait, la filmer un petit peu bah, quand ils voulaient, quoi.
C'est vraiment le do-it-yourself tuto, ouais, YouTube, ouais. Comment faire de la motion capture chez vous à moindre frais sans studio.
Ouais, c'est génial, parce que ça colle tellement bien, tu sais, avec le lore de Devolver. C'est un studio écossais, un des membres fondateurs est écossais, et c'est comme ça d'ailleurs qu'ils se sont rencontrés avec les équipes de No Code. Le simple fait qu'ils soient écossais suffisait à ce qu'ils traînent dans les mêmes milieux de jeux vidéo. Et tu sais, c'est la petite famille qui bosse chez eux, et puis ils ont tous les petits secrets de grand-mère. Alors oui, moi je me souviens effectivement pour la motion capture, tu vois, et tu les vois très bien effectivement faire des petits tutos ou des petites vidéos à la brute, tu sais, très rapide, en mode hop, tu vois un truc et boum, ça y est, tu fais de la motion capture. C'est ce côté un peu débrouille, un peu c'est vraiment, c'est un peu ça, je pense, l'ADN à Devolver. Je pense que ça les fait kiffer, ce genre de petits détails là.
Et ils ont fait ça aussi même pour la bah, pour les animations des décors, parce que bon bah voilà, le jeu se passe dans l'espace. Et forcément, bah, simuler la gravité quand t'as pas trop les moyens, c'est un peu compliqué. Et du coup, voilà, ils ont juste mis je crois que c'est un des membres de l'équipe qu'ils ont fait tourner sur un tabouret. Ouais. Et voilà, ils l'ont filmé, et ils ont repris à peu près le mouvement pour que ça marche à peu près. Du coup, au tout début du jeu, on voit un corps comme ça qui tourne sur lui-même juste devant nous. Et voilà, bah, c'est un mec sur un tabouret.
Ouais, filmé de haut, en fait, hein, qu'ils ont fait pivoter et qu'ils ont filmé au-dessus. Donc, non, mais c'est bien, c'est rigolo, parce que ça, pour le coup, c'est vraiment des astuces de cinéma un peu old school, avant la 3D et la CGI. Et vu que c'est un film qui est très référencé Cinoche, je trouve que c'est assez marrant comme approche.
Un
ce
jeu,
genre de petit
un
délire.
Jeu très
un
référencé
jeu, tu vois,
Cinoche.
Bah voilà.
Voilà, lapsus.
Le lapsus
révélateur. Tu spoil la fin de, l'émission, là. Qu'est-ce que tu nous fais? la petite origin story du jeu, elle est assez rigolote aussi. C'est John McKellen qui, pendant qu'il travaillait sur Alien Isolation, il aurait lu, enfin bon, je vais pas utiliser le conditionnel parce qu'il l'a raconté dans tellement d'interviews que je pense que c'est la réalité. Il a lu un article en fait sur un article qui parlait d'Alien, le film, et qui proposait en fait de faire une lecture du film via le point de vue de l'alien. Et en fait, la conclusion c'était que bah, c'était juste une pauvre bestiole qui essayait de survivre au milieu des humains qui essaient de le buter. Et il a trouvé ça assez intéressant de changer le point de vue de cette trope un peu récurrent de la science-fiction, et il s'est dit bon bah c'est quoi l'autre trope très commun dans la science-fiction, c'est l'intelligence artificielle un peu machiavélique, c'est HAL de 2001 de l'Odyssée de l'espace. Et je pense qu'à ce moment-là ça a un peu fait boum dans sa tête, ça a fait des chocs à pic, et il s'est dit ça y est, ce que j'ai envie de faire c'est vous faire jouer la même situation qu'on a dans des films de science-fiction où il y a une intelligence artificielle, mais cette fois-ci on vous fait jouer l'intelligence artificielle. Et bah une fois qu'ils avaient vraiment cette idée de base, bah ils ont pu vraiment, alors voilà, l'idée, je sais pas s'il l'avait, je pense qu'il l'avait justement à la sortie d'Alien Isolation, mais voilà, elle a dû macérer pendant un bon moment. Mais cette fois-ci, voilà, avec la confiance de Devolver et les sous d'Epic, bah, ils ont pu se lancer vraiment dans cette ambition et se lancer dans la construction de cette station orbitale et de nous faire jouer cette IA. Ça a encore une fois bien marché au niveau critique. Je crois que le jeu a été aussi assez bien reçu, hein. Je crois que sur Metacritic, on est à 83-84, entre comme ça, je crois que c'était quasiment kiff
juste en dessous
du 80, plus,
mince, on avait fait le fact checking, mais bon voilà, il est dans la zone des bons jeux d'après mes
il est dans la zone des bons jeux, et cette fois-ci il a récupéré un vrai BAFTA, hein, pas un Scottish BAFTA, mais
ouais,
le vrai
alors,
BAFTA du
ça se discute
game, ouais.
Puisque c'est le vrai BAFTA du jeu britannique,
oui,
qui est un
ça,
peu le, tu vois la caution chauvinisme des BAFTA. Non, cela dit, d'année en année il y a toujours des jeux assez sympas qui sont sélectionnés là-dedans, mais bon voilà, tu vois, c'est le côté jeu britannique. C'est un peu comme nous avec les Pégases, quoi. C'est tu sens que c'est voilà, c'est parce que c'est le petit côté, c'est chez nous, etc., etc. Mais bon, c'est quand même une belle récompense, et surtout ça, bah, ça leur, je pense, ça leur donnait la confiance pour la suite, parce que clairement c'est un jeu qui bah, qui m'a marqué, moi, ça m'a fait plaisir de le découvrir grâce à vous, parce que c'est Max qui m'en
oui,
a parlé.
Oui, c'est Max qui l'a suggéré. Je crois que c'est vraiment un des jeux, c'est la première fois en tout cas sur le Discord de fin du game qu'il y a autant de gens qui nous disent je connaissais pas, je ne savais pas que ça existait, et des gens qui l'ont justement acheté pour l'occasion, qui l'ont découvert, et j'ai l'impression que tout le monde a plus ou moins passé un bon moment. Donc là on est vraiment dans la catégorie club de lecture, hein. On est vraiment là-dedans dans ce qu'on essayait de faire avec ce Discord. Voilà, c'est le jeu parfait pour ce truc là. Voilà, la dernière fois on a fait The Witcher 3, je crois qu'on peut pas faire plus gros, et là cette fois-ci observation, je crois qu'on fait difficilement plus petit. C'est probablement, enfin plus petit, c'est pas un petit jeu, mais en termes d'audience, en termes de rayonnement qu'il a pu avoir, c'est probablement voilà le jeu le plus confidentiel dont on va parler.
C'est la taxe fin du game sur les AAA qui nous apporte l'audience et l'argent sur le Patreon, mais du coup on peut faire des petits jeux, tu vois, pas très connus grâce au Mastodonte, quoi.
Non, mais moi je trouve ça super cool de ce grand écart qu'on fait entre un énorme jeu et un petit jeu. Je trouve ça bien parce que voilà, c'est ce qu'on s'était dit dès le début de la conception de l'émission, qu'on voulait vraiment alterner entre des trucs comme ça, et je trouve ça chouette là, voilà, sur ce mois ça représente parfaitement ce qu'on essaie de faire avec fin du game.
Et du coup toute cette histoire de club de lecture, bah c'est l'occasion, parce qu'on le dit peut-être pas assez à chaque épisode parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas dit, mais voilà, rejoignez-nous, hein. Vous avez le lien Discord normalement dans la description de votre appli de podcast, sinon vous pouvez nous retrouver, il y a le lien dans le profil Twitter. Venez parce que du coup, bah, comme on vous prépare à l'avance en vous disant voilà, ça sera le jeu dont on va parler dans deux et peut-être plus d'épisodes, on est en train de réfléchir,
on va
peut-être
voir,
augmenter le nombre d'épisodes pour vous laisser du temps à vous aussi pour faire les jeux. Moi je trouve ça super de se dire bah tiens, on va regarder ça, observation. Moi je le savais pas non plus, je l'ai acheté sur les conseils de Max, et j'adore cette idée de se dire bah on se fait des petites recos, on en parle derrière, on fait l'émission. C'est effectivement voilà un des aspects de fin du game que je trouve très très cool, donc merci.
Bah, c'est vrai, Max. C'est vrai qu'à nous trois voilà, on va scout, on va un petit peu chercher chacun de notre côté, et après quand on a un jeu et on se dit bon bah là lui il a le potentiel pour faire un épisode, bah bim, c'est cool de pouvoir découvrir ça. Du coup on va vraiment rentrer dans le vif du sujet avec l'histoire du jeu qui est pas si simple, mais on va essayer de le faire de la manière la plus simple qui soit. On l'a dit, on incarne une IA qui s'appelle SAM, c'est un acronyme pour System Administration and Maintenance, qui est donc l'IA qui va gérer une station orbitale, et cette station en fait on ouvre les yeux, entre guillemets, on ouvre la caméra suite à un accident. On comprend que voilà, la station a eu un accident, il y a eu un gros problème plus que technique, et c'est Emma Fisher, une des membres de l'équipage, qui commence à nous parler, qui nous réveille, elle nous reboot, hein, tout simplement. Elle va nous donner son mot de passe, elle nous dit voilà, je suis Emma Fisher, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on scanne sa voix et hop, on l'autorise à rentrer dans notre programme. Et c'est comme ça qu'on va rentrer en échange avec elle, puisqu'elle va nous demander d'aller vérifier certains trucs pour voir concrètement ce qui s'est passé après cet accident. Et surtout que le problème, c'est qu'elle est coincée dans un des modules de la station qui est vraiment foutu comme une vraie station spatiale, hein, comme l'ISS.
Ils se sont vachement appuyés sur les plans de la NASA sur tout un tas d'aspects pour donner un côté très crédible, puisque du coup le jeu il se passe quasiment à notre époque, hein. On a vérifié en off à la vitesse de l'éclair, ça se passe donc en 2026, donc effectivement c'est pas très très éloigné de nous. Et surtout, ce qu'il faut retenir, le côté ISS et le côté international, c'est-à-dire qu'en gros, c'est plusieurs pays qui mettent en œuvre énormément d'argent, hein, c'est des milliards et des milliards pour créer ce truc-là, et donc très vite, on comprend qu'il y a différents bras avec la partie européenne, la partie américaine, la partie chinoise, la partie russe, etc. Et elle est bloquée dans un coin, Emma Fisher, elle ne peut évidemment pas juste ouvrir la petite fenêtre pour aller voir ce qui se passe, c'est l'espace, c'est dangereux, on meurt dans l'espace, voilà. C'est comme ça, moi ça me terrorise. Et du coup, Sam, qui est un peu l'assistant virtuel, le de la station, lui va pouvoir aller vérifier en faisant des tests tout simplement, est-ce que tel bras il est toujours accroché, est-ce qu'il y a des signes de vie, est-ce qu'il y a des humains à l'intérieur, est-ce qu'on entend, tu vois, c'est vraiment des informations très très pragmatiques à base de est-ce qu'il y a du son, est-ce qu'il y a des trucs, est-ce qu'il y a de la vie, et c'est comme ça qu'on va petit à petit en fait découvrir via ce tuto à quoi ressemble en fait la station globale, puisqu'au début, comme tu dis, on est vraiment confiné avec Emma dans ce module. C'est le mot qui m'est venu en tête, mais j'ai pas fait.
Non, mais c'est le bon mot. Et en fait, du coup, Sam qui va pouvoir interagir avec différents éléments qui sont dans la station. Il peut interagir avec des ordinateurs, il peut interagir avec des prises, il peut interagir avec les systèmes en fait administratifs et de maintenance. Hein, c'est son nom. Il peut interagir avec tout ça. Et du coup, le tuto, elle nous demande d'aller. Il y a un espèce d'incendie dans un des bouts des bras de la station. Et du coup, on va devoir se rendre dans ce module-là. on va s'y rendre via les caméras, puisque en fait Sam il a plein de points d'entrée dans chacun des modules via des caméras, hein. Il surveille comme ça, il a un champ de vision multiple dans chacun des modules, et en fait en se rendant dans une caméra de la salle, et ben on peut activer différents systèmes, le système de ventilation et évacuer en fait le feu qu'il y a dans ce truc. Et en fait, tout au long de ce petit tuto, bah, on apprend à faire ça. Et puis surtout, il va se terminer par le fait de sortir... Enfin, on sort pas de la station spatiale, mais de regarder un petit peu l'amplitude des dégâts de l'accident sur la station. Et en fait, en regardant les dégâts qu'il y a sur les bras, et bah, on va se rendre compte qu'on n'est plus du tout en orbite de la Terre, comme ce qui était prévu. On est en orbite de Saturne. Et là, et bah, qu'est-ce qu'on fout là? Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que nous demandait ma fichier.
Tu t'as pris la mauvaise sortie sur l'autoroute et... Oui, tu te retrouves à côté de Saturne.
Il fallait prendre, voilà, non mais c'est exactement. Sam a eu un petit souci de GPS, et justement d'ailleurs Emma lui dit mais qui c'est qui nous a amené là, et Sam lui dit bah apparemment c'est moi. Et voilà, et ça boum. Se coupe comme ça, et il y a super générique de Train 13 Nord, mais de Nine Inch Nails que vous avez entendu. Et surtout, il y a cette espèce de gros message qui apparaît directement sur l'écran avec ramène-la, bring her en anglais. Et voilà, il y a quelqu'un qui essaie de nous dire, qui est de dire quelque chose de ramène-la. Donc ensuite, le jeu va se rouvrir en fait sur différentes parties. Emma va nous rebooter une nouvelle fois. La première partie, on va essayer de rechercher si les différents autres membres de l'équipage sont toujours en vie. On va se rendre compte que c'est pas trop le cas, qu'il reste plus grand monde de vivants dans cette station, à part une, je crois que c'est une des membres de l'équipage chinois qui est encore là. On va la retrouver et on va essayer de l'aider à rejoindre Emma. Malheureusement, ça ne se passera pas comme prévu parce que il y a des modules de la station qui sont déconnectés et du coup elle va devoir passer par l'extérieur de l'espace, mais malheureusement elle se fera absorber par une espèce de tempête, parce qu'il y a une tempête à un des pôles de Saturne, c'est ça,
oui.
qui est une vraie tempête, hein. On a regardé, on était tous étonnés qu'il y a effectivement une vraie tempête en forme d'hexagone à un des pôles de Saturne. Ça a été vérifié par nous-mêmes.
On a, oui, voilà, c'est ça, on a fait sur Wikipédia, ça s'appelle, hein, alors voilà, bon, nous on dévoile un peu comme ça les secrets de fabrication
de l'émission,
les coulisses, on vous donne un peu les petites astuces, mais non, mais oui, du coup c'est vrai que c'était assez impressionnant de se rendre compte que non seulement ce truc il existe, que cette forme géométrique ça paraît improbable sur Terre pour nous, tu vois, qu'un truc prenne cette forme là, mais là c'est possible, et c'est vraiment un truc qui doit faire la taille de je sais pas combien de continents, parce que Saturne c'est gigantesque. C'est extrêmement flippant, vraiment, voilà, si vous voyez des vidéos ou des gifs de ce truc là sur internet, maintenant je pense que je vais faire des cauchemars la nuit de savoir qu'il y a ce truc comme ça là dessus et je pense que c'est ça qui les a inspirés, puisque bon, ouais, en plus la forme d'hexagone elle est très présente dans Observation, et je sais pas si on la voit d'ailleurs aussitôt, je sais plus à quel moment on voit l'hexagone comme ça qui se met à nous parler.
Oui, c'est vrai que voilà, on peut le dire, c'est vrai que tout au long du jeu on va croiser plusieurs fois cette espèce d'hexagone, hein, noir qui communique avec nous en nous envoyant des symboles qu'il faut reproduire à l'aide d'un système de jeu extrêmement développé qui s'appelle le Simon. Donc on te donne le symbole et tu rappuies sur le symbole. Mais c'est vrai que voilà, il y a des hexagones de partout, hein. La station orbitale, elle est foutue en hexagone, les modules sont construits en hexagone, il y a cet hexagone qui nous parle, il y a l'hexagone de la tempête de Saturne, donc c'est vraiment le motif, hein, clair du jeu, d'ailleurs tout le générique est construit là-dessus, donc il y a vraiment un délire avec les hexagones. Et donc on va essayer de sauver cette meuf de l'équipage, mais malheureusement elle se fait attraper, et du coup bah hop c'est parti, Sam il délire encore une fois, et du coup elle doit nous rebooter une nouvelle fois.
C'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas dit, excuse-moi je te coupe, mais c'est que ouais, c'est assez rigolo parce qu'ils utilisent le trope de la perte de mémoire. En fait, l'intelligence artificielle a perdu la mémoire, et c'est pour ça qu'on ne sait pas et qu'on doit reproduire et qu'on doit se reconnecter avec chacun des différents modules. Et à chaque fois qu'il lui arrive un espèce de truc comme ça, elle a comme une espèce de trauma, l'IA, et elle tombe dans les vapes. Tu vois, je vois pas comment le dire autrement. Ouais. C'est assez rigolo. À chaque fois, il faut la rallumer.
Bah, elle crache quoi, comme ton PC quand tu lances un jeu trop gourmand. Voilà, bim, l'hexagone est trop gourmand et du coup, elle crache. Et la deuxième partie du jeu, Emma tente d'essayer de résoudre un maximum de problèmes dans la station. Elle se rend compte qu'il y a notamment aussi Jim, hein, donc qui est le capitaine, qui est mort. Et en fait, pendant qu'on répare un petit peu cette station, on se rend compte qu'il y a une autre station qui approche de la nôtre. Au début, elle croit que c'est un équipage de sauvetage, hein, qui a été envoyé par la Terre, par Houston, pour nous sauver. sauver, mais pas du tout. C'est une station qui ressemble étrangement à la nôtre. Et le truc, c'est que bah, le problème, c'est que la nôtre, elle a de moins en moins de puissance, elle a de moins en moins d'énergie, elle va pas tarder à tomber en rade. Du coup, Emma se décide à sauter le pas et aller rejoindre cette autre station qui se rapproche. Et du coup, bah, voilà, on saute avec elle, on rejoint l'autre station. Elle fait d'ailleurs une remarque assez pertinente. Elle se dit, tiens, c'est bizarre, le design est exactement le même que la nôtre. Ils ont dû développer plusieurs modules, plusieurs stations comme la nôtre. Oui, alors nous, de notre côté, on commence bien vite à se rendre compte que ce n'est pas un autre modèle, c'est clairement une copie de la nôtre. Et on va s'en rendre compte d'autant plus qu'on va trouver, on va découvrir que Jim dans celle-ci est vivant, mais par contre Emma, puisqu'il y a une autre Emma dans cette station, est morte. Et là, en rencontrant le Jim de cette station, il nous dit que c'est Sam qui a tué Emma. Donc Tintintin. Ouais. Cliffhanger, mais pas trop, puisque apparemment ça a pas l'air de les déranger. Ouais. On continue nos petites affaires. On va essayer de bah, là aussi de réparer cette station, mais surtout avec Sam, on va essayer d'accéder à l'unité centrale de Sam. Alors je ne sais pas pourquoi elle n'était pas accessible dans la première station.
C'est sûrement un grand
parce que
cas
c'est pas
de
pratique
TG
pour l'histoire.
CM. Tu vois, voilà, c'est ça. Ce n'est pas pratique, donc on ne voulait pas vous le montrer plus tôt, donc on vous a pas dit que ça existait. Non, mais c'est vrai que dans toute la première partie, tu ne peux pas accéder tout simplement ouais. au module central qui relie tous les autres bras. Tu peux pas explorer librement avant pas tard dans le jeu, parce que bon, ça fait pas si longtemps, mais tu ne peux pas encore tout explorer librement à ce moment-là.
Et du coup, bah, cette fois-ci, bah, on va confronter l'unité centrale de Sam, donc qui est l'autre unité centrale, dans, en tout cas la double, la copie. Et là, on va apprendre une chose assez importante, c'est qu'en fait, la mission, la réelle mission de la station orbitale, c'est de trouver trois réponses, c'est-à-dire qui, où et quand. A priori, la réponse à qui, c'est Emma, donc c'est son code ADN, on va dire que c'est la personne importante. Et où et quand, et bien en fait, c'est le point justement où on est, c'est-à-dire autour de Saturne, à ce moment-là, à cette espèce d'instant, il doit se passer quelque chose. Et on comprend en fait que ce message, bah, il a été reçu il y a un petit moment par Houston,
humains,
et que c'est du
ouais.
coup par les humains. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont envoyé la station orbitale, c'est pour essayer de ramener cette personne à cet instant-là, et voir à cet instant, mais plutôt un point d'espace-temps, hein. C'est quelque chose d'assez difficile à entrevoir pour nous qui avons une perception limitée du temps et de l'espace. Mais voilà, sachez que tout est relatif.
À Glasgow, coup, voilà, ils savent faire. Ils ont des capacités pour.
Eux, ils savent le faire. Et du coup, bah, voilà, l'objectif en fait, de la station, c'était d'amener Emma à ce point dans l'espace-temps et pour voir ce qui va se passer.
Et ça, c'était du coup la mission un peu sous-marin de Jim, qui était le chef ouais. de l'équipage, qui, lui, savait que c'était ça qu'il fallait faire, mais les autres membres de l'équipage n'étaient pas au courant. Et on peut trouver un petit peu des sortes, alors pas des audiologues, mais on peut trouver des ordinateurs portables un peu ici et là dans la station, qui sont optionnels. Et on peut lire un petit peu justement des infos de membres de l'équipage qui disent « Mais Jim, il me demande de faire ça, je sais pas pourquoi. » Pourquoi ? Enfin voilà, il y a des petits ouais. un petit peu questionnements et on comprend un petit peu mieux ça à mesure qu'on joue.
Et bah du coup Jim il va un peu péter un câble contre Sam et Sam lui bah comme c'est une intelligence artificielle elle ne va pas se laisser faire, surtout qu'elle est en train d'accéder à une nouvelle forme un petit peu d'entité, parce que dès le début du jeu il y a cette espèce de petite matière noire hein, sur l'accident où il y a le feu là, où il y a l'incendie dans un des modules, on découvre une espèce de matière noire, un truc un peu visqueux, un peu éthéré, hein, c'est l'espèce de corruption comme on le voit souvent dans l'imaginaire SF, et du coup bah, Sam et Jim vont rentrer en conflit. Jim va essayer, je sais pas s'il va essayer de ramener la station sur la Terre ou d'abandonner la mission, je sais plus trop.
C'est pas très clair, en fait c'est au ouais. moment où il revient tous les deux, Emma, donc c'est notre Emma à nous, ouais, ouais. elle est éjectée à l'extérieur et en fait on a l'impression qu'elle est morte et il y a toute une phase de cache-cache avec Jim qui prend le contrôle ouais. de la première station. Le deuxième Jim prend le contrôle de la première
station. C'est ça,
station.
Il revient dans notre première station et je sais pas, je pense qu'il veut s'enfuir ou revenir sur Terre, en fait changer la trajectoire de la station. Mais nous, notre Sam, Sam lui, il a sa mission, hein, il a ses ordres qui lui sont donnés à la fois par la Terre mais en plus par cette espèce d'hexagone, hein, on le comprendra un peu plus tard que c'est que c'était cet hexagone qui nous manipule un petit peu, et du coup il lui donne l'ordre, simplement c'est marqué en gros kill him, hein, tuez-le. Donc on va se débarrasser de Jim en l'asphyxiant, hein, comme le font les IA, en fermant toutes les écoutilles et en laissant le vide rentrer, et du coup il meurt. Et une fois que Jim est mort, bah Emma revient, elle était en train de graviter autour de la station, elle revient, elle a l'air beaucoup plus calme d'un coup, elle nous dit d'ailleurs qu'elle a ressenti ce qu'on a ressenti, qu'elle a changé, qu'elle a compris maintenant ce pourquoi on est là, et ensemble avec elle, on va amener justement la station au cœur de la tempête de Jupiter. Il y a tout un puzzle où il faut justement gérer la trajectoire pour pouvoir atterrir précisément sur Jupiter. Et là, une fois arrivée sur Jupiter, Emma nous prend sous le bras. Elle enlève son casque d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a même plus besoin de respirer.
Je dis Jupiter, mais c'est Saturne, je me suis
trompé. Si vous arrivez sur Saturne, n'enlevez pas votre casque.
Oui, c'est vrai que tu dis Jupiter depuis tout à l'heure. Je me disais, il y a un truc qui me revient.
Parce que dans la préparation, voilà, dans 2001, bah oui. L'espace, c'est Jupiter. Et du coup, j'arrête pas de bugger sur
ce nom
de planète.
Rien à voir.
Ça n'a rien à voir, voilà. Et du coup, une fois arrivé sur Saturne, bah, on va côtoyer une espèce d'immense hexagone qui va encore une fois rentrer en contact avec Emma, qui va se soulever, comme ça, elle va léviter juste devant l'hexagone. Il va encore avoir une petite phase de Simon, où on nous donne des symboles que nous devons reproduire. Et après, une fois que ça s'est fait, eh bien, en fait, Sam et Emma vont se mélanger, vont ne faire plus qu'un, et hop, on est téléporté sur Terre, et là, le message qu'on nous donne, c'est « ramène-les, bring them all », et du coup, on se dit « bah ça y est, Emma, elle a accédé à une nouvelle, elle a transcendé son humanité, surtout qu'elle a en plus le pouvoir d'utiliser les tentacules de matière noire magique, puisqu'elle envahit les arbres autour d'elle ». Donc voilà, c'est une séquence, le jeu se termine un petit peu sur une séquence vraiment pas « what the fuck », parce qu'on n'est pas perdu non plus. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant, cette espèce de fin avec le grand hexagone.
Ça embrasse vraiment ce qu'on sous-entendait depuis le début. C'est-à-dire qu'au moment où tu vois cette deuxième station et que toi, tu t'es dit dans ta tête, ah bah oui, oui, en fait, c'est un double, les trous dans la, tu vois, le continuum espace-temps, tu vois, des concepts qu'on manipule tout le temps entre la poire et le dessert. On a compris qu'il y a quelque chose d'un peu surnaturel qui va se dérouler, et qu'il y a cette espèce de monolithe, entre guillemets, hexagonal qui nous parle. Donc tu sais qu'on va vers quelque chose comme ça. Donc c'est assez, c'est pas surprenant en fait cette fin là, c'est-à-dire que c'est très c'est finalement vers ce à quoi on s'attendait, mais ça marche quand même parce que bah, c'est très bien mis en scène, est juste une espèce de petit ballon de foot avec la petite caméra, on voit bien en contre-plongée, enfin cette mise en scène est vraiment très réaliste.
Oui, je l'ai pas dit d'ailleurs, c'est vrai que Sam peut voir à travers les différentes caméras des modules, mais surtout il peut intégrer une espèce de petite sphère qui vole, et cette petite sphère, bah voilà, on la dirige comme on dirigerait un peu personnage.
Le twist au niveau du gameplay, on se rend compte au bout d'un moment qu'on est plus limité au simple point de caméra et qu'on peut se déplacer. Mais comme le jeu est très court, on y reviendra peut-être un peu plus tard, en termes de rythme, ça a moins un impact que dans un jeu vidéo où après 20 ou 30 heures, il se passe un truc incroyable comme ça.
Et puis à la fin, t'as cette scène où elle va vers le dernier monolithe avant le dernier memory, où il y a toutes les différentes capsules, t'as des cadavres aussi d'Emma Fisher, de ses clones qui sont sur le chemin, et comme tu disais Benoît, tu parles de ce dernier plan, et à chaque validation du Simon, on voit de plus en plus de silhouettes d'Emma, d'Emma Fisher qui sont en bas.
Oui, parce que du coup, ce qu'on comprend, c'est que il n'y avait pas qu'une seule copie de la station, mais en fait des milliers, et qu'a priori, dans tous les multivers et tous les univers parallèles Sliders, à tous les instants, l'humanité à chaque fois essayait d'envoyer Emma Fisher à cet endroit, et qu'il y en a tout un tas qui n'ont pas réussi, mais qu'il y en a tout un tas d'autres, puisqu'on imagine que c'est un nombre quasiment infini, qui ont réussi, et il y a un plan absolument incroyable où tu as des tonnes et des tonnes d'hexagones dans le ciel, et tu te dis, ah oui, alors, et tu commences à les compter, mais tu comprends vite qu'il y a en fait beaucoup de Emma Fisher qui ont réussi à se fusionner avec un Sam.
Oui, en fait, on atteint un espèce de point de convergence, hein, des réalités alternatives, et c'est vrai que visuellement, je trouve que c'est assez bien retranscrit sur cette fin de mise en scène où t'as comme des tranches, en fait, il y a comme plein de tranches de dimensions qui se compressent les unes vers les autres, et c'est vrai que je trouve que ça fonctionne très bien, et on comprend qu'on est arrivé à ce fameux qui, où et quand, c'était ce point-là, c'est la fin du jeu, c'est le point culminant, et qu'ensuite on va réouvrir vers une autre étape pour l'humanité. Et je pense que c'est en ce sens-là qu'on peut dire que c'est pour ça qu'on n'a pas été perdus tous les trois quand on a fait le jeu, c'est que c'est un titre qui est très référencé. On voit clairement où on en est. Voilà, je confondais Saturne et Jupiter à cause de 2001, l'Odyssée de l'espace. Mais bon, c'est parce qu'on est quand même vraiment dans les canons de ce qu'a fait Stanley Kubrick avec le film, à la fois sur le délire de l'IA. Hein, tout de suite, dès qu'elle nous parle, je me suis dit « Ah oui, je suis Hal, quoi. C'est bon, ouais, j'ai compris. »
Le doubleur, il a une grosse voix très chaleureuse, ouais. Il parle très lentement, évidemment. Donc bah, voilà, dès que tu parles, tu te dis « Ok, c'est bon.
Ouais, » bah,
je ne suis pas perdu.
C'est le pitch du jeu. De toute façon, c'est vraiment « Vous êtes dans l'espace, vous incarnez Hal. » Tu vois, ils avaient fait pour certains, en invitant certains journalistes, ils avaient fait des projections de 2001, l'Odyssée de l'espace. Ils s'en cachent pas, tu vois, ils le savent très bien. Mais au-delà, en plus d'incarner l'IA, il y a effectivement la figure un peu du monolithe slash hexagone. Ouais. Il y a aussi l'agenda secret, du coup, d'une partie de l'équipage qui en fait ne va pas là où il pensait aller, tu vois. On disait là, dans le cas d'Observation, il y a un membre de l'équipage qui savait qu'ils allaient en fait vers Saturne. Et dans 2001, sans trop en dire, il y a Hal qui a aussi une mission en fait secrète. Mmh. C'est pour ça qu'en fait, qu'il devient entre guillemets méchant. C'est juste qu'à un moment, les ordres viennent. En fait, il obéit à des ordres en fait qui sont au-dessus du membre de l'équipage. Quoi.
Il n'obéit plus à l'équipage, c'est et ça. Voilà, c'est un petit peu ce qui se passe entre guillemets dans le jeu, même s'il y a un côté un peu plus fantastique, c'est-à-dire que Sam accède à une espèce de.
Ouais.
D'existence un petit peu supérieure puisqu'il a ces espèces de tentacules là qui naissent quand en fait Jim essaie de le tuer, essaie de nous détruire et en fait bah non il n'y arrive pas parce que notre unité centrale elle explose et t'as les bras maléfiques de Mal qui arrive à le tuer, de Sam pardon qui arrive à le tuer et du coup voilà et puis voilà comme tu le dis. Encore une fois, bah, dans 2001, l'Odyssée de l'espace, je spoil pas trop non plus, mais c'est quand même aussi une histoire de l'humanité qui se transcende, qui passe à une autre étape de ce qu'elle est. Et c'est vraiment un petit peu ce qu'on va ressentir à la fin d'Observation.
Et puis, bah, en plus de 2001, on peut aussi citer du Gravity. Hein. Alors, je sais pas à quel genre il rentre. Moi, j'ai pas envie de dire que c'est la science-fiction, personnellement, Gravity. Mais bref, voilà, c'est pas important comme question. Mais dans ce côté où vraiment ils sautent d'une station à l'autre, tu vois, t'as des plans un petit peu où ils vont vraiment faire des sauts.
Un côté assez tech, tu vois, assez hard dans le côté sci-fi où en gros il s'appuie vraiment sur de la science dure pour nous dire bah oui l'espace c'est très dangereux, c'est pas, il y a pas du son comme dans Star Wars, c'est pas tu sautes comme ça, c'est vraiment très compliqué, juste faire une sortie extra tu vois, sortir du module c'est très compliqué, il faut virer l'oxygène,
sans qu'elle souffle bien d'ailleurs elle se lance, elle dit bon bah allez je me lance et c'est vrai que tu sens qu'elle prend son souffle parce
elle sait que si elle
se
foire elle va mourir quelques semaines plus tard à cause de la fin de l'oxygène quoi.
C'est ça tu vois, toi tu disais c'est terrifiant d'être dans une station et en fait l'espace il a autant suscité l'émerveillement que la peur puisque bah, des thrillers dans l'espace t'en as plein hein. on les a déjà cités tu vois avec 2001 ou Gravity, il y a Alien aussi, donc là t'as le côté en plus monde alien, le fait d'être confiné en fait, d'être piégé dans une station spatiale, c'est propice en fait à plein de plots. T'as aussi, je crois que c'est Sunshine de Danny Boyle. Bah c'est que des films de toute façon qui jouent justement sur le côté très oppressant de pas pouvoir s'enfuir ou juste de d'être exposé aux risques que pose l'espace. Et là on a en plus la petite touche surnaturelle entre guillemets. Mais pour en revenir sur l'émotion, chez No Code, ils considèrent que c'est pas un jeu d'horreur, et c'est le cas d'ailleurs, hein, par rapport du coup à Alien, où là on est sur un plan quand même assez, sur un aspect assez horrifique, ou The Thing.
Moins rassurant pour tes fesses.
Ou The Thing, tu vois, où là aussi c'est de l'horrifique. Non, là il dit c'est plutôt un thriller, hein, parce que, bah, en partie, parce que aussi on incarne justement l'intelligence artificielle, on est en contrôle de la station, on voit les différentes interfaces, on a accès à toutes les caméras. On peut pas nous faire du mal en fait physique, même s'il y a des moments quand on est dans notre petite sphère, on peut se faire attraper, enfermer. On n'a pas vraiment peur pour notre vie, donc c'est plus un thriller parce qu'il y a quand même, tu vois, c'est, j'irais pas non plus que c'est un jeu. S'il y a des gens qui ont peur vraiment de, entre guillemets, de tout et n'importe quoi, je leur conseillerais pas forcément Observation, surtout qu'il y a un moment, ouais, j'ai pas su le dire de façon bienveillante.
Peur de tout et n'importe quoi.
J'ai pas su le dire de venir de façon très bienveillante, parce que moi en plus je suis pas fan vraiment de jeux d'horreur, mais là ça va, tu vois, dans l'ensemble.
Ouais,
mais il y a quand même une ambiance un petit peu oppressante. Il y a un moment jumpscare aussi quand même. Il y a un moment l'hexagone vraiment, il te pop devant. Moi c'est un moment quand même dans le jeu, je vais oh putain, ok, ouais, j'ai eu un petit putain, t'es con l'hexagone. Mais sur le coup, j'ai eu un petit peu peur. Ouais.
D'ailleurs, toutes ces séquences avec l'hexagone, on a trouvé, il y a plein de... En fait, les symboles du Simon, ils ne sortent pas de nulle part. En fait, on peut les interpréter comme vraiment les ordres que nous donne l'hexagone. Mmh. Au début, en fait, on peut se rendre compte que chacun des membres de l'équipage a un petit symbole qui leur est associé. Alors, en fait, c'est toujours une pyramide, mais ils ont différentes places sur cette pyramide. Je crois que c'est ça. Et du coup, bah, Emma, elle a son symbole qui lui est associé. Et en fait, on comprend que l'hexagone, bah, il nous communique avec ses symboles. Il nous dit, voilà, Emma, protège-la ou ramène-la à des endroits. Et en fait, voilà, je crois qu'on va le croiser peut-être 3 ou 4 fois tout l'hexagone. Et en fait, bah, les différentes petites sections de symboles, c'est des petites phrases qui nous expliquent. Et en fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de place à l'interprétation. C'est-à-dire que si à la fin, une fois que tu termines le jeu, tu te dis, bon, attends, c'est quoi le délire? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, quand tu te base sur ces symboles et les différentes phrases qu'il t'a données, il n'y a pas trop de matière à interpréter. C'est vraiment genre, voilà, l'intelligence artificielle qui a ramené Emma à un endroit pour qu'il soit mélangé entre eux selon les ordres d'une entité un peu supérieure et qui communique avec nous via des symboles et cette espèce d'hexagone.
Et pour donner des exemples de symboles qu'on peut interpréter, donc tu l'as dit, il y a Emma qui a sa petite place dans la pyramide de cubes. On peut en déduire que les cubes, en fait, ça représente l'humanité. Donc parfois, il y a des symboles un petit peu. Il y en a un, on voit 3 cubes qui en deviennent un. Enfin, il y a des flèches vers un seul cube. Il y a cette idée de fusion, en fait, de fusionner des humains. Sinon, il y avait, pour représenter, par exemple, Saturne, il y a un dessin, c'est plusieurs cercles. Et il y a un hexagone au milieu. Donc,
hexagone, un cercle qui fait la forme de la planète et un gros anneaux, cercle un peu plus épais qui fait l'anneau. Et puis t'as Sam aussi qui a sa petite icône, hein, qui est la petite boule justement avec un petit œil au milieu. T'as le symbole infini qui serait supposé tout. Donc voilà, en fait, les symboles, quand je jouais, je me disais, ah ouais, racine carrée, machin, pour m'en souvenir, tu vois, pour jouer au Simon correctement. Mais au final, bah, tu peux vraiment leur donner une signification très basique, mais qui te donne finalement une phrase avec un concept et une idée derrière.
Et comme tu le disais, ça laisse pas non plus trop de place déjà d'une part à l'interprétation, et puis même au final, même si tu vois, nous quand on a fait le jeu, on n'avait pas compris la première fois que les symboles vraiment étaient déchiffrables. Au final, ce qu'on en a appris, on en a pas beaucoup vraiment appris plus que ce qu'on savait déjà, tu vois, le fait de
fusionner, ça confirme tes hypothèses qui sont de toute façon largement suggérées parce que tout ce que le jeu raconte et son imagerie en plus un peu qui va taper dans une imagerie collective et qu'on connaît et on sait, ok, bah c'est les mondes parallèles.
Parce
que
autant il y a des symboles, ils te font comprendre, ok, Sam, Emma, fusion, mais en fait, toi, t'avais déjà un moment, Emma qui te faisait comprendre qu'elle ressentait les émotions de Sam, et à la fin, ils sont un seul et même être, tu vois, et tu le comprends pas, ils parlent tous les deux en même temps, on n'avait pas en plus besoin d'un dessin, tu vois, ça suffisait.
Littéralement.
Ouais. Non, mais ça, par contre, c'est vrai que c'est pas forcément. Alors, c'est pas forcément une question de gravité, mais c'est vrai que, enfin, c'est pas grave qu'on comprenne bien, mais c'est vrai que c'est assez rigolo de voir à quel point le jeu, il est tellement référencé que si tu as un certain bagage culturel, mais qui a pas besoin d'être énorme, je pense pas que t'aies besoin d'avoir vu, si t'as pas vu 2001, l'Odyssée de l'espace, parce que c'est quand même un film qui date, même si c'est un classique, je vous le recommande, c'est pas grave, tu comprends quand même, parce que tu vois, on se le disait nous dans la préparation, des tropes comme ça, avec des doubles, avec des miroirs, avec des fusions, des hommes, des machines et tout, c'est des trucs qu'on croise même sous des formes peut-être plus enfantines dans des dessins animés, c'est des trucs qu'on croise souvent dans d'autres jeux vidéo, dans des séries télé, etc. Wow. Donc c'est que des situations qu'on connaît, mais qui nous sont montrées sous un prisme un peu différent, avec ce petit twist qui est assez intéressant du, en fait, c'est toi l'intelligence artificielle. Parce que, évidemment, l'idée de l'intelligence artificielle qui devient sentiente, comme on dit, c'est Skynet, hein, c'est Terminator, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît très très bien. C'est une peur assez classique, hein, l'idée de la singularité. C'est un truc comme ça qu'on connaît bien et qui est très actuel, puisque comme on fait beaucoup de travaux sur l'IA, on s'attend un jour à ce que ça puisse arriver. Mais du coup, voilà, c'est des choses, c'est que des concepts qu'on a l'habitude de manipuler, mais malgré tout, ça fonctionne parce que le jeu, il te met comme ça dans cette situation un peu nouvelle de, en fait, je suis la caméra. Pour une fois, je joue pas l'humain qui doit faire face à la machine, je suis la machine. Et ça donne,
c'est vrai que
ça donne
si on jouait Emma, si on jouait Emma, je pense que là on serait vraiment sur un fan game de 2001, l'Odyssée de l'espace, quoi. Parce que à peu de choses près, on va pas le désactiver le Sam à un moment. Mais voilà, c'est vrai que ce serait extrêmement proche de le faire du point de vue de l'humain. Et là, c'est vrai qu'il y a ce twist qui est intéressant. Et surtout, en fait, même si c'est quelque chose, tu vois, dans lequel on baigne un petit peu, en fait, c'est quand même bien réalisé. C'est-à-dire que l'imagerie, elle fonctionne. La station, elle est quand même crédible, comme il y a un mélange un peu de réalisme, de fantastique et tout, ça marche bien. Et je trouve qu'on... Moi, j'avais vraiment... Enfin, l'histoire, elle était plaisante à suivre, tu vois. Tu rentres dans le jeu. En plus, il est quand même assez bien rythmé. Je crois même, d'ailleurs, qu'il avait été pensé à la base pour être fait en épisode. Ouais. Ils en avaient parlé. Finalement, ils n'ont pas gardé ça. Mais tu te rends compte qu'il y a une espèce de structure un peu sinusoïdale, comme ça, en termes de rythme. Et voilà, t'es tenu assez en haleine. Et quand tu rentres dans la deuxième moitié du jeu, quand tu commences à aller dans la seconde station, bon, bah, t'as envie d'aller au bout et de bombarder pour voir ce qui se passe à la fin. Mmh. Parce que le jeu, il te laisse quand même à cette petite perche. T'as envie de comprendre où ça va aller.
C'est peut-être d'ailleurs une des petites faiblesses du jeu, moi, que j'ai relevé en le faisant, c'est que, en fait, on comprend quand on accède enfin aux différents menus de contrôle de Sam, qu'il y a un peu plus de 80 éléments qu'on peut détecter et qu'on peut retrouver comme étant autant d'audiologues et de trucs comme ça. Mais le jeu est tellement mené à un moment donné, il y a vraiment une fuite en avant à partir de la deuxième partie du jeu, que tu te rends pas forcément compte par toi-même, sauf si tu te forces à un moment donné à faire stop et à essayer de te balader, qu'en fait t'as pas mal de liberté. Il y a des moments du jeu où t'es relativement libre et tu pourrais potentiellement te balader, surtout quand t'as accès aux sphères. Tu peux aller dans tout un tas de salles où tu n'es pas censé aller parce qu'on t'a pas demandé d'y aller, mais tu peux visiter pour essayer de reconstituer ta mémoire, hein. C'est un peu le prétexte de l'histoire, de te dire bah tu vas reconstituer la mémoire. Quand t'arrives à relier plusieurs éléments entre eux, ça te donne accès à un nouvel élément qui résume le truc et qui te donne des choses, vraiment beaucoup d'informations sur chacun des membres, par exemple, de la station, sur le rôle même de la mission précurseur, hein, qui est le vrai nom de la mission observation, que tu découvres que si tu fouilles un petit peu comme ça. Donc moi j'ai trouvé ça un peu dommage que le jeu nous fasse pas comprendre plus clairement qu'on avait la possibilité d'être vraiment très libre, parce que justement comme on est une machine, on se place en tant que joueur très rapidement dans ce mood où on doit suivre des ordres.
Ouais, exactement.
Alors, c'est très bien parce que ça fonctionne bien avec le jeu vidéo, on a l'habitude de suivre des ordres dans du jeu vidéo parce qu'on fait ce qu'on nous demande, c'est souvent comme ça que ça fonctionne, et je trouve que comme on se place très bien dans ce rôle là, on perd un peu, tu vois, cette espèce de liberté qu'on aurait voulu
oui, on n'a pas envie de désobéir en fait, tout ça. Simplement, enfin, contrairement à d'autres walking simulator où tu vois, t'es dans une grande maison et tu vas papillonner un petit peu de temps en temps parce que tu dis, bah, j'ai envie de voir ce qu'il y a. C'est vrai que là, il y a toujours un sentiment d'urgence parce que tu dois toujours résoudre un problème. Tu vois, t'as Emma qui te dit, vas-y, dépêche-toi, va résoudre là-bas. Il y a une alerte dans ce secteur-là, il y a une alerte dans ce secteur-là. T'as vraiment un moment dans le jeu où t'as une to-do list à faire. Tu sais, tu dois vérifier tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit. Et du coup, oui, c'est vrai que t'es tout le temps dans cette fuite en avant. Effectivement, t'as envie de faire les choses qu'on t'a demandé de faire. Et c'est vrai que moi, j'ai pas eu le sentiment à un moment de me dire bah vas-y là c'est peut-être le bon moment pour chillax, parce que c'est pas le cas, c'est jamais chill en fait, t'es toujours dans l'urgence, on est à côté de Saturne, qu'est-ce qu'on fait là, donc c'est pas le moment de glander dans la station orbitale. Et c'est vrai que je pense que dans mon playthrough, je suis passé de toutes les backstories, je pense, des personnages secondaires, j'ai vraiment pas beaucoup creusé. Et c'est, en fait, c'est d'ailleurs tout ce qu'ils vont faire en termes de gameplay, c'est-à-dire que voilà, Sam, il doit résoudre des problèmes, et ces problèmes, bah, ils vont c'est des puzzles, concrètement, c'est des espèces de puzzles, et surtout des puzzles qui sont faits via une interface. On l'a dit tout à l'heure, hein, John McCallan, c'est un mec qui faisait les interfaces sur Alien Isolation, et là, on se rend compte qu'ils prolongent vraiment ce qu'ils ont commencé à faire, même sur Stories Untold, hein, toi, Max, qui a joué un petit peu, c'était aussi ce même genre de délire, c'est-à-dire tu prends des petites interfaces, soit des bouts de papier, des plans, des schémas, des choses comme ça. Et en fait, l'idée, ça va pas forcément... C'est pas un challenge, c'est pas des puzzles qui sont challengeants où tu te dis, bon voilà, il y a plusieurs variables à prendre en compte, etc. Et je dois trouver la solution. C'est plutôt comment utiliser l'interface qu'on m'a mis devant les yeux. Je pense que ce qui incarne très très bien ça dans le jeu, c'est au tout début, c'est après le générique, il y a Emma qui nous dit, ouais, il y a un réacteur à fusion que machin, il a fait fonctionner, moi je sais pas du tout comment ça marche, vas-y, démerde-toi. Et du coup, tu te retrouves devant une espèce de puzzle avec un cercle, avec des espèces d'ondes qui gravitent autour de ce cercle, et tu dois essayer de résoudre ça comme ça.
Ah oui, le truc magnétique là.
Ouais, c'est ça, avec une espèce de truc magnétique. Et forcément, quand tu tombes devant ça, tu fais, bah, je sais pas faire marcher, moi, enfin, on m'a jamais appris. et du coup, tu dois un peu comprendre sur le tas. Tu bidouilles des petits boutons ici et là. Et au fur et à mesure que ça évolue, tu dis, ah ouais, en fait, je comprends, faut que je réunisse le cercle à cet endroit. Et du coup, je dois régler les différents aimants aux différents points pour que le cercle il se calque sur le schéma. Mais ça illustre bien toute la tous les puzzles qu'ils vont faire tout au long du jeu et qu'on va nous demander d'exécuter, qui sont souvent des trucs, je comprends pas ce qu'il faut faire, et c'est une fois que t'as compris ce qu'il faut faire que c'est facile en fait. Il n'y a pas un challenge de réflexion avec des outils, c'est comprendre comment se servir des outils
c'est,
qu'on te donne.
C'est ça, le puzzle, c'est comprendre le puzzle en fait, hein, tout ouais. simplement. Et eux, ouais, je sais pas, en termes d'exercice, c'est assez particulier, ils doivent te mettre en place du coup des espèces d'interfaces, des espèces de trucs qui sont pas évident à comprendre, mais qui font des choses voilà, que tu vas comprendre. Enfin, c'est une certaine vision du puzzle, hein, qui fait du coup l'identité du studio. Je sais plus dans quelle interview il disait que bah, c'était un peu la no-code way, tu vois, ce genre de puzzle. Et oui, comme tu disais, ils l'ont un petit peu fait avec... enfin, beaucoup fait, même avec Stories Untold. Bah voilà, c'est ce qu'ils aiment faire. Et... McKen, il disait avec Alien Isolation, lui, il a vraiment développé un style en fait artistique avec les UI. C'est son petit délire, c'est son petit plaisir en fait de faiseur d'interface, et il partage ce plaisir du coup en mêlant un petit peu les deux, en faisant des puzzles basés sur des interfaces. Et du coup, on le disait, bah, le fait d'incarner l'IA, c'est intéressant. Et c'est ce qui fait qu'on va devoir en fait pouvoir résoudre un petit peu des puzzles qui seraient peut-être un petit peu trop bizarres pour des humains.
Oui, parce qu'on côtoie vraiment plein d'interfaces différentes. Hein. Il y a déjà les interfaces qui sont à l'intérieur de SAM, c'est-à-dire la carte de la station avec lesquelles on va pouvoir regarder différents points. Il y a aussi une interface où, je sais pas, pour voir le spectre des voix ou les membres de l'équipage ou un truc comme ça, où tu vas avoir différentes sources d'informations. Tu as l'espèce d'interface aussi dont tu parlais tout à l'heure, Benoît, tu sais, quand il faut réunir deux éléments que tu as trouvés, donc il faut les relier ensemble pour que ça se fasse une troisième information qui mélange des deux précédentes informations. Donc déjà, il y a plein d'interfaces comme ça. Et puis après, les puzzles, en fait, c'est les différents points d'interaction, genre, je sais pas, le système de chauffage, le système d'alimentation, les trucs comme ça, le système qui va permettre de relier les différents modules de la station entre eux. Ben voilà, ça, à chaque fois, c'est une interface nouvelle. T'arrives devant un écran particulier et c'est pas évident à faire parce que c'est pas un écran, logiquement, qui est destiné aux humains. Mmh. C'est-à-dire que c'est pas une interface qui est faite pour être utilisée par des humains, c'est des interfaces qui est faite par une IA. Alors, c'est un peu bizarre, oui. Parce que est-ce qu'une IA verrait des interfaces ?
Non. Enfin, en tout cas, pas.
Voilà,
je
suis pas sûr.
On l'entend, en tout cas.
Oui, voilà, c'est ça.
C'est pas c'est plus du. Ce serait déchiffrer, décrypter des informations, des données.
Des zéros et des uns, voilà. En gros, c'est ce que devrait traiter une IA.
Alors que là, il y a un côté assumé de ce qu'on appelle parfois l'interface porn, qui est vraiment des couleurs vives, des formes géométriques. Enfin, c'est toute une esthétique, hein, qu'on retrouve beaucoup dans les trucs d'espace, hein, évidemment. Les gros sas mécaniques aussi qui se ferment, tout ce que tu peux trouver, je sais pas, dans Evangelion, Ghost in the Shell, un petit peu, enfin,
tu vas avoir des parties mécaniques qui vont s'accrocher entre elles, ouais. Tu vas avoir des portes qui vont s'ouvrir et ça va former un iris, enfin, tous ces trucs-là, t'as tout un tas de d'artistes qui sont vraiment fanatiques de ça, et là, ils ont poussé le délire à fond, puisque non seulement tu joues avec la partie gameplay, mais des interfaces, t'en as constamment, parce que comme tu n'es pas un être humain, tout ce que tu vois, la seule façon que t'as d'interagir, c'est via un écran, via une caméra, ou via une interface, en fait. Donc c'est vraiment le rêve du créateur qui s'est dit, comment je peux aller encore plus loin dans mon délire d'interface, tu vois, et il va faire que ça. Et le début du jeu, moi, j'avais beaucoup aimé ça, l'idée que quand tu ouvres les yeux, entre guillemets, et que tu vois la caméra, et que tu vois Emma pour la première fois, tu sais, il y a tout un tas de skylines, ça vibre, tu sens que t'es une espèce de VHS, ça voilà, c'est des petits délires, ça rappelle un peu justement l'esthétique de Stories Untold, mais c'est des petits délires qui te permettent, toi joueur, de comprendre de manière très subtile que tu n'es pas un humain mais que tu es une machine, parce qu'on a l'habitude de voir des caméras, on en a tous une dans la poche, donc on a l'habitude de savoir ce que ça fait de regarder à travers une caméra, mais eux, ça leur permet du coup de réaliser leur délire de foutre des interfaces absolument dans tous les coins du jeu, quoi.
Quand t'incarnes la petite sphère, à chaque fois que tu te cognes, ça se brouille un petit peu sur la caméra, et puis t'as un petit son aigu, ça fait un petit vite, à chaque fois que tu te cognes, ce qui est un enfer du coup, à un moment quand t'es dans le noir dans une autre station, moi j'arrêtais pas de cogner et je devais juste m'immobiliser avant de pouvoir revoir quelque chose, mais ouais, il y a toute cette esthétique, et il y a aussi un truc qui est intéressant, c'est que quand on est en mode caméra de surveillance, il y a certains sas, certaines salles qui en ont, je sais pas, 3 à 4, et quand tu passes d'une caméra à l'autre, il y a une transition qui est assez soignée et qui remplit du coup deux objectifs, deux buts. La première, c'est que déjà, c'est, esthétiquement, c'est sympa parce que tu as un côté un petit peu... simplification du sas.
Frame.
Il devient un peu en blueprint, tu vois, un peu en côté, tu vois, juste les lignes du sas, juste la construction du sas, c'est tout simplifié, on enlève toutes les fioritures, donc quand on passe d'une caméra à l'autre, hop, c'est vraiment fait juste avec des lignes d'architecte, en fait, la salle, et aussi, c'est vraiment utile pour le joueur, parce que tu comprends de quelle perspective tu passes. Parce que si tu passais directement de caméra 1 à 3 d'un clin d'œil, tu perdrais un petit peu de temps à te repérer, surtout que dans l'espace, t'as pas de notion de haut et de bas, donc du coup, l'intérieur est pensé pour ça, donc tu serais paumé, alors que là, vraiment, t'as la petite vidéo qui dure une seconde, qui fait hop, je passe de là à là, t'as le mouvement du travelling, en fait, de la caméra, pour que tu puisses te repérer par rapport à où t'étais avant.
Bah d'ailleurs, quand t'es en sphère, justement, c'est les moments où tu te paumes beaucoup plus, parce que tu tournes sur toi-même, tu vas à droite, tu vas à gauche, tu pivotes, et c'est vrai que pour le cerveau humain, moi, ça me dépassait un peu parfois, j'étais vraiment paumé, littéralement, surtout que bah, voilà, tous les bras se ressemblent un petit peu, hein. Ils sont tous foutus de la même façon, c'est toujours, ils ont des tailles similaires, ils ont des formes similaires, les portes, c'est juste le chiffre qui est marqué dessus qui change, donc c'est vrai qu'il y a plein de moments où j'avais la tête en bas, où je me disais, attends, on se calme, on va essayer de se repositionner pour savoir où on en est, parce qu'il y a des puzzles aussi qui se font à l'extérieur, enfin pas à l'extérieur, mais qui se font pas dans les interfaces, mais t'as des puzzles où tu dois d'abord activer un truc dans la pièce, et ensuite ça va pouvoir alimenter quelque chose d'autre dans la salle. Et puis il y avait aussi tout un moment où justement quand Jim s'enfuit de la seconde station et revient dans la première, il te prend sous le bras et il t'enferme, il coince la sphère quelque part, et en fait à partir de ce moment là bah, tu vas devoir t'enfuir, tu peux pas passer par les sas parce que t'as plus accès à l'unité centrale, à la caméra centrale, et du coup tu dois passer par des espèces de conduits d'aération, et Benoît, toi comme moi, on a vraiment bloqué sur ce truc là parce que on avait du mal à se projeter dans cette espèce d'espace là et à se dire ah oui, il faut passer par une bouche d'aération, parce que justement dès que on est hors des interfaces, moi j'ai eu plus de mal à voir les différents points d'interaction et les choses avec lesquelles je pouvais faire des trucs.
Il y a une espèce de paradoxe avec leur délire des interfaces, c'est que du coup il y en a trop, tu vois, par exemple dans les menus j'ai mis longtemps à comprendre que dans la carte tu pouvais placer des repères, parce qu'il y a tellement d'informations à l'écran, il y a tellement de petits trucs que tu ne lis pas forcément l'information, comme quoi tu as un input qui te permet d'avoir un truc, et du jour où j'ai découvert que je pouvais mettre un repère, bah, c'est à partir de là où je me suis dit ah bah tiens, je vais pouvoir aller me balader dans telle pièce, etc. Et de la même manière, il y a un des petits soucis de lisibilité, parce que bah, on nous a pas habitués à voir les grilles d'aération, et elles ne se sortent pas du décor, tu vois, ouais. Ça, c'est vraiment un truc de level design, vous avez tous probablement remarqué Uncharted ou The Last of Us avec la couleur jaune ou la couleur blanche qui attire l'œil pour vous dire, là vous pouvez vous agripper, etc, c'est un truc classique du jeu vidéo, là, il n'y a rien, tu vois, c'est vraiment, en plus, elles sont cachées dans un coin, il y en a une, la première, elle est derrière le cadavre du capitaine, donc, tu vois, j'ai pas pensé à regarder dans cette direction-là, et le fait de trop mettre d'interface par moment dans le jeu, ça crée une espèce de problème de lisibilité. Alors je sais pas si c'est volontaire de leur part, j'imagine que ça doit être un tout petit peu voulu, parce qu'ils ont dû faire pas mal de tests, etc. Mais tu sens que ça déborde, tu sens que c'est un peu trop généreux. C'est le bon élève qui, tu lui demandais une petite rédaction de 3 pages et il fait 83 pages de fanfiction sur FF7 parce que c'était son kiff, et ce n'est pas du tout un élément qui m'est arrivé en 3ème. Donc, donc tu vois, t'en fais trop alors que c'était pas ça qu'on t'avait demandé. Et il y a des moments où du coup le jeu nous perd un peu, je pense, en tant que joueur.
Et surtout, il y a un truc que Max nous a dit qu'il a fait, qui est apparemment super pratique, que tu peux voir le nombre de points d'interaction justement que t'as dans chaque salle, le voir apparemment sur la carte. Et ça, toi comment, on l'a pas vu, quoi. Non. Alors moi, je sais que typiquement, je suis le genre d'élève, vous savez, qui lisait pas toutes les consignes et qui commençait déjà à faire l'exercice. Voilà, ça c'était un petit peu mon style. Et c'est vrai que bah observation. Voilà, je suis pas le bon élève, tu vois, je teste pas tout, je fais ouais, vas-y, j'avais vraiment envie de suivre l'histoire, et du coup je pense qu'il y a plein de choses auxquelles je suis passé à côté parce que j'avais pas la rigueur en fait de lire tous les éléments qui me mettaient devant le nez.
Et les bouches d'aération ne sont, je pense pas, soient considérées
en plus, comme
des objets d'interaction. Là, il fallait être encore meilleur élève. Il fallait regarder la carte. En fait, moi, je me souviens en tout cas qu'il y a un moment, la bouche d'aération, t'es bloqué par le sas par lequel tu veux passer. Tu regardes la carte, tu vois où tu veux aller, et en fait, ouais, la bouche. En fait, tu vois qu'il y a un tunnel qui va vers là.
Il y a un chemin. Ouais.
Et une fois que tu regardes, tu comprends que t'as la bouche d'aération qui est devant et qu'il faut faire l'espèce de petit dash là, qu'il faut cogner dedans pour la faire tomber. Mais effectivement, tu vois, il faut passer d'un point de vue à l'autre, il faut naviguer un petit peu dans les différentes
interfaces.
Il faut
jongler en fait entre toutes les interfaces, et Je sais pas, je pense que moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal. Moi, quand tu me donnes une notice, j'ai pas envie de la lire. Et forcément, bah, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et j'avais du mal à. J'ai eu du mal à avoir cette rigueur, je pense, que le jeu me demande. Et du coup, bah, il y a eu beaucoup de moments où j'ai été bloqué. Je pense que je me suis plus énervé sur Observation que sur tous ces Sekiro. Parce que j'étais vraiment souvent bloqué. Parce que j'avais du mal à avoir cette rigueur-là de jouer entre les interfaces. Et surtout que voilà, il y a des puzzles. Ou parfois je comprenais juste pas pas ce qu'il fallait faire quoi.
Bah, ils sont pas tous égaux en termes de clarté. Après c'est compliqué parce que c'est des sensibilités aussi différentes. Moi je me souviens qu'il y a par contre il y a vraiment un puzzle où j'ai galéré et que Benoît a trouvé super facile. C'est celui je sais plus où t'as les coordonnées, je sais plus trop la station qui est censée être où ça parlait de l'ombre.
Ah oui avec
de la
radio.
Oui je sais plus c'est soit l'ombre de la station où faut trouver une station sur une planète.
Oui il faut trouver un point sur un truc comme ça.
Moi je me souviens j'ai rien compris. Je crois que je l'ai fait un peu au pif, enfin, je me souviens de ne pas avoir compris comment je l'ai résolu, tu vois. J'ai un peu fait plein, j'ai passé du temps et au bout d'un moment, c'est passé, quoi.
Ouais, et à l'inverse, moi, il y a des trucs, le coup de la bouche d'aération. Je voyais sur la carte qu'il y avait un tunnel entre les deux, mais j'ai pas percuté dans ma tête bouche d'aération, tu vois. J'avais j'avais pas activé la partie Metal Gear Solid de mon cerveau qui me faisait repérer ce genre de détails là, parce que comme je n'en avais jamais vu jusqu'à présent dans toutes mes balades et je m'étais un peu baladé dans la station, j'avais pas percuté que j'allais pouvoir passer par là. Mais bon,
moi, c'est pareil sur les prises, tu vois, les prises électriques. À un moment, faut allumer une prise pour alimenter un ordinateur. Bah pareil, tu vois, je comprenais pas parce que le jeu m'a pas dit active la prise. Mais après, voilà, j'imagine que les gens qui nous écoutent vont dire putain, le mec est vraiment débile et vous aurez sûrement raison. Mais c'est vrai, quand le jeu ne t'éduque pas à regarder quelque chose, à faire attention à quelque chose, et les bouches d'aération, il y a aucun moment où il te fait passer d'abord par la bouche d'aération pour qu'ensuite, une fois que t'es tout seul et tu dises bah vas-y, je vais essayer de trouver si je peux pas passer par une de ces bouches. Et voilà, en fait, suggérer, faire du foreshadowing ludique, c'est aussi très très important. Et ça, il l'avait pas fait pour ce coup-là et je pense ça m'étonne pas qu'il y a pas mal de gens qui étaient bloqués sur ce point-là.
En plus, le tuto est mal foutu. C'est-à-dire que ça, c'est un truc qui est super important. Moi, j'aime bien analyser ce genre de petite couille au niveau du game design. En gros, tu découvres le pouvoir du dash, donc tu dois ouvrir une porte de l'intérieur, mais l'action que tu ne fais, c'est pas casser quelque chose pour que ce truc libère un espace. Ouais. Alors qu'en fait, c'est ça qu'ils auraient dû nous enseigner. Si on avait dû casser un truc, tu vois, si on était dans une espèce de boîte et qu'on faisait sauter le carton, on aurait peut-être plus compris qu'on pouvait casser des choses avec ce dash là.
Moi, je me suis direct dit... une bouche d'aération
qui t'enferme.
Ouais, tu te mettre dans une salle, voilà.
Ça,
et
c'est
bim,
le niveau zéro du
tuto,
mais il y a toujours des manières, tu vois, de le faire de manière un peu subtile. Et là, en fait, ils ont fait un choix qui ne colle pas forcément avec le reste de l'action. Et je trouve que c'est intéressant ce genre de petit truc de game design, de bien voir attention, tu vois, comment on enseigne des choses dans du jeu vidéo, c'est très important. Et quand c'est fait de manière subtile, de toute façon, tout l'art du jeu vidéo, c'est de ne pas t'en rendre compte, tu vois, c'est vraiment de supprimer les fils pour que tu ne vois pas que tout ce que tu fais a déjà été anticipé. Moins tu vas voir l'illusion, tu vois, mieux le jeu il est réussi. Donc là, il y a des moments où le jeu, tu sens que il y a des petites faiblesses, mais c'est ça qui le rend aussi peut-être un peu intéressant. C'est-à-dire que moi, j'ai bien aimé me dire, ben, ils ont encore une énorme marge de progression parce que tu sens qu'ils ont eu vraiment une sensibilité sur ce délire des interfaces, etc. Tu vois, quand tu y joues a posteriori ou quand on a discuté entre nous, tout est une question d'interface. Tu vois, tu parles avec Emma, l'interface entre les humains, tu veux fusionner avec elle, le fait de brancher une prise dans un trou, bah, c'est de créer une interface entre l'électricité et tout. Donc voilà, t'as cette symbolique du contact et du lien qui est un peu partout, et j'ai limite, je pense que j'aurais presque plus de plaisir à refaire le jeu pour essayer de comprendre tous ces petits délires que la première fois.
Et t'as un autre défi dans ce côté un petit peu puzzle interface, c'est aussi le périphérique, parce que on a vu beaucoup de plaintes de gens aussi qui jouent au clavier, clavier souris. Alors il y a des soucis un petit peu au niveau du déplacement, mais tu sens que dans l'appréhension des puzzles, quand ils te demandent d'appuyer sur tel ou tel bouton, j'ai l'impression que le clavier, il fout plus la merde, tu vois. Toi, en tant que joueur, dans ton approche de truc, dans ta compréhension du puzzle, j'ai l'impression qu'à la manette, c'était beaucoup plus instinctif pour beaucoup de gens, parce que déjà aussi, t'as un code couleur, parfois, ça t'aide un petit peu à te repérer, et puis tu sais que il n'y a pas 40 boutons, tu vois, différents sur ta manette.
Un clavier, c'est une interface plus compliquée qu'une manette. En vrai, il y a plus de boutons, il y a beaucoup plus de possibilités, donc oui, c'est plus compliqué à anticiper qu'une manette. Et puis surtout, après, c'est vrai, peut-être que dans un espace 3D, le stick, ça peut être peut-être un peu mieux, ça, je sais pas. Mais,
oui, non, ça...
Mais ouais, c'est
ça.
Les boutons, en fait, comme les interfaces avec lesquelles tu interagis, elles sont déjà remplies de lettres et de chiffres. C'est vrai que te renvoyer en plus à des inputs, aux vrais inputs qui sont des lettres ou des chiffres, ça peut être problématique. Alors que tu vois un bouton bleu, c'est le X de la manette Xbox, il ressort beaucoup plus, tu vois, et c'est peut-être plus simple de le lire.
Mais tu le vois bien d'ailleurs, parce que à chaque fois que tu essayes de te lier avec un nouveau système que tu n'as jamais encore, avec lequel tu n'as jamais encore communiqué, quand tu joues à la manette, c'est t'as trois inputs de carré, rond, triangle qui affichent ou
c'est un QTE.
Ouais, voilà, t'as un petit QTE à réaliser et ça jure complètement avec tout le reste de l'esthétique du jeu. Tu vois que ce n'est pas prévu pour et qu'ils l'ont rajouté après parce que ça n'a pas été anticipé au départ. Et ce que je trouve intéressant pour tout ce qu'on a cette discussion sur les petits soucis d'illisibilité ou de compréhension des puzzles, c'est là, tu vois, que ça définit vraiment ce qu'est un jeu de niche parce que eux, ils ont fait ce qu'ils avaient envie de faire et ils ont kiffé faire ce truc d'interface. Et je suis quasi persuadé que si tu demandes à des joueurs et des joueuses qui eux, ils sont déjà dans ce délire-là, ils ont dû juste surkiffer leur race parce qu'ils étaient tout de suite dans leur élément, quoi. Que nous, on découvrait peut-être un pan du plaisir vidéoludique qu'on ne connaissait pas encore, tu vois.
Ouais. Mais du coup, malgré tout, finalement, le fait qu'ils aient décidé de faire un jeu presque à partir de l'interface, parce que quand on regarde bien, quand on regarde un peu leur délire, on se dit que c'est presque un prétexte, tout ce jeu n'est qu'un prétexte pour nous faire kiffer des interfaces. Bah, malgré tout, si on le regarde d'un point de vue plutôt projet science-fiction, bah, ça marche vachement bien. Et surtout, bah, il n'y a pas de film qui aurait pu faire ça, il n'y a pas de livre qui aurait pu nous faire jouer une interface, parce que bah, le jeu vidéo, c'est une interface, enfin, c'est quelque chose avec lequel on interagit littéralement. Et c'est vrai que nous mettre dans cette position de l'IA et de nous faire travailler à travers l'interface, ça fait une proposition de SF qui est assez unique malgré le fait qu'elle soit référencée, et ça en fait un jeu réussi.
Oui, c'est ça, sur le papier, sur les enjeux et tout, c'est des choses qu'on a déjà pu voir et on n'était pas perdu. On se disait entre nous, voilà, dès qu'on a vu la seconde station, on s'est dit, ok, bon, ils ont pris telle branche de la science-fiction et ça va continuer à partir de là. Mais le plaisir, enfin, moi, c'est vrai que j'ai eu un vrai plaisir notamment sur le contrôle, tu vois, des caméras de surveillance. Ça donne une scénographie qui est assez intéressante. Il y a un vrai jeu sur les lumières, sur les couleurs, tu vois, qui cool de passer d'une caméra à l'autre et de découvrir un petit peu les plans qu'ils ont prévus pour nous. Ça j'ai bien aimé. Et puis t'as un moment quand t'as Emma Fisher qui va éteindre le feu, ou en tout cas qui se rend à l'endroit où il y avait le ouais. feu. En fait, elle traverse toute la station et toi tu peux en fait suivre sa pro... tu peux juste l'attendre bien sagement à l'endroit où elle va aller, ou tu peux juste, et parce que ça marche, tu vois, ça a été fait,
c'est en temps réel,
voilà,
tu peux la suivre,
tu peux aller hop à telle caméra de telle sas qu'elle va traverser sous tel angle et hop la voir passer comme ça, et t'as un choix en fait de faire. Bah, à ce moment là t'es vraiment au contrôle de la caméra en fait face à la scène du jeu, et c'est toi qui te fais ta petite cinématographie, ta petite scène
petit
de film.
Tu fais ta petite scène, voilà, avec tes différents plans.
Et le jeu, voilà, qui s'appelle Observation, c'est le moment aussi de d'en profiter un petit peu. Non, mais c'est des moments, moi c'est un moment, tu vois, vraiment de me dire je peux le regarder ça sous tel angle, et j'ai le choix de le faire à ce moment-là. Ça, c'est un vrai petit plaisir, tu vois, que le jeu m'a apporté.
Et puis moi, il y a une des salles, c'est celle où Jim est mort, celle où il est couché. Elle m'a marqué, cette salle, parce que justement, tu sais, quand tu prends une des premières caméras dans cette salle, tu vois cette espèce de forme, tu comprends pas tout de suite, et après, hop, tu changes d'un point de vue, et là, t'es beaucoup plus proche de lui, et du coup, bah, le fait de changer de plan comme ça te permet de créer un petit peu des surprises, parce que t'as à la fois beaucoup de pouvoir, mais en fait, t'en as très peu, parce que voilà, juste être à différents points de vue, c'est assez intéressant de nous faire jouer les caméras de Resident Evil, tu vois, qui sont collées à un certain angle de la pièce, et du coup ça permet de créer, comme tu dis, une scénographie particulière, et ils sont effectivement pas mal amusés avec ça. Et d'ailleurs, même t'as différents puzzles que tu dois résoudre justement en te mettant du bon angle, parce que tu vas pouvoir voir des trucs accrochés sur les murs ou planqués derrière un ordinateur, et il n'y a qu'une des caméras qui pourra le remarquer.
Et un truc du coup, moi, que j'ai beaucoup aimé avec cette idée-là de se créer son propre film, c'est que c'est une des rares fois où je trouve que c'est bien que le jeu vidéo s'inspire autant du cinéma. C'est vraiment un truc moi auquel j'ai réfléchi juste avant qu'on tourne l'émission, où je me suis dit, mais tiens, c'est marrant, parce que tu vois, d'habitude j'ai tendance à critiquer dès que le jeu il essaye de trop lorgner vers le cinéma, que ça soit du Détroit, du Uncharted, ça crée en général des espèces d'écart entre la partie gameplay et la partie narration. Là, en fait, ils ont réussi à adapter du cinéma des choses vraiment spécifique, hein, le fait de choisir le cadre, le fait de faire son propre montage, etc. C'est vraiment la grammaire du cinéma, et de l'exploiter dans du jeu vidéo. Ça, je trouve que c'est plutôt... alors, c'est pas un tour de force incroyable, et ça en fait des génies, mais c'est une très bonne application d'un autre média, et de le transposer dans du jeu vidéo en nous disant, bah tiens, vous êtes la caméra, et le fait de nous placer dans ce rôle de caméra fait qu'on a cette expérience de cinéma qui est souvent recherché dans le jeu vidéo, et là, en fait, ce qui fonctionne, bah, c'est toutes les références à 2001, etc. Donc c'est, tu vois, je trouve que c'est plutôt une approche assez maline de cette problématique de est-ce que le jeu vidéo, c'est du cinéma ? Non, mais eux, ils arrivent à te montrer que les deux peuvent cohabiter, et que ça donne un résultat qui est tout à fait intéressant.
Parce qu'en général, les inspirations cinématographiques, c'était juste nous faire jouer les scènes d'action en fait, des films avec bah, typiquement Uncharted, c'est Indiana Jones, mais voilà, tu joueras vraiment les scènes d'action et les cinématiques, on s'en occupe. Pareil avec, je sais pas, Soldat Ryan et Medal of Honor par exemple, et voilà, plein d'autres jeux comme ça. Mais un 2001 par exemple, c'est pas un film où il y a des scènes d'action, de combat, vraiment, où voilà, ce sera, on n'en ferait pas un TPS, tu vois, on n'en ferait pas. On peut juste en faire un thriller au
mieux. Gears of Hell. Ouais.
Parce que sinon, il y a. Parce que bon, bah, des jeux d'horreur, sinon, il y en a évidemment. Mais là, tu vois, comme c'était un truc un peu plus. C'était pas s'enfuir d'un monstre, c'était pas survivre avec des réserves d'oxygène, avec des mécaniques de survival et tout. Là, c'était juste, bah. Observer, en fait, regarder ce qui va se passer. On exécute certes des ordres avec les interfaces et tout, mais c'est un jeu de puzzle, tu vois. C'est pas un jeu d'action. Et l'expérience cinéma, c'est vraiment, bah ouais, comme on l'a dit, des plans, une cinématographie. C'est juste, bah voilà, on va regarder ce qui se passe et c'est une histoire de SF, quoi.
Non, et puis surtout, en fait, ça aurait été vraiment la transposition du cinéma, comme je disais tout à l'heure, s'il nous avait fait jouer Emma. Si on jouait cet humain-là, là, on aurait vraiment vécu un truc de base. Alors que là, on a plusieurs points de vue, on a plusieurs points de rentrée, on a un pouvoir que seul le jeu, le jeu vidéo peut nous donner, parce qu'on a cette liberté de se balader entre les différentes caméras, d'accéder à différents points, enfin... Au cinéma, tu vois, c'est toujours difficile de filmer des interfaces, tu vois, quand, tu sais, les hackers, les mecs, ils tapotent vite sur l'ordi pour rentrer les trucs, c'est toujours un peu caricatural. Là, c'est vrai que bah, c'est totalement normal, en fait, de nous faire jouer ça, de nous faire interagir à des trucs, d'avoir un HUD. C'est logique, en fait, quand on interagit avec une caméra, quand on est ces points-là. Et du coup, ça marche vraiment. Et moi, je pensais, moi, ça faisait pas mal penser à du found footage. Limite, il y a plein de moments où, voilà, quand au début, elle nous place juste devant elle, on a l'impression qu'elle nous filme avec une GoPro et qu'elle nous donne un espèce de témoignage, je sais pas. Il s'est passé ci, il s'est passé là. D'ailleurs, moi, je pensais sincèrement qu'en fait, à la fin du jeu, on allait comprendre que c'est un mec qui retrouve les différents fragments mémoire de Sam, alors qu'en fait, non, c'est pas ça. Je pensais vraiment que ça allait partir sur du found footage, et ça crée aussi justement cette ambiance un petit peu oppressante, parce que t'as pas accès à tout non plus, tu vois. T'as juste le point de vue de caméra, de truc qui filme.
Il y avait ça, je reviens sur le fan footage, j'avais lu une interview, c'était pour PC Gamer, c'était genre peut-être en décembre, donc quelques mois avant la sortie du jeu. Ils en parlaient comme s'il y avait vraiment dans le jeu deux temporalités, où t'avais vraiment ce qui s'était passé sur la station et le présent sur Terre, où justement tu devais avoir, j'imagine, accès aux images du truc. Donc c'est une décision qu'ils ont dû prendre apparemment un petit peu au dernier moment, mais ouais, c'était un petit peu prévu. Il reste effectivement ces plans un peu qui te rappellent du fan footage, quoi.
Oui, tu sens quand même que le jeu, il avait pas forcément... Il a peut-être changé de scope en cours de route, parce que clairement, en termes de production et de sous, bon, ça a l'air d'être un projet qui était pas forcément évident à faire pour eux. Au final, ils arrivent quand même à bien retomber sur leurs pattes, et comme on l'a dit, comme ils arrivent à nous faire vivre un truc qui est certes qu'on connaît déjà, mais comme ils ont ce tout petit twist de nous faire vivre le point de vue de l'IA plutôt que d'un des personnages dans la station, bah, ça donne en fait un jeu de SF qui est assez unique et qui du coup bah, fonctionne vraiment très très bien. Moi j'étais surpris de me dire que avec une histoire qui est finalement vue et revue, ils arrivent quand même à nous surprendre, et c'est là où je trouve que c'est intéressant de se dire que bah, le jeu vidéo il permet d'apporter comme ça des petits twists sur un point de vue, un changement bah, de contrôle, d'interface, etc. et que ça te permet de redécouvrir une histoire sous un autre angle. Ça c'est vraiment très malin de leur part, et bah, du coup moi ça me donne envie de voir ce qu'ils ont fait déjà avec Stories Untold. Je me dis je le ferai peut-être à l'occasion, et de surveiller ce qu'ils vont faire peut-être par la suite s'ils ont déjà un projet dans les tuyaux, quoi.
Oui, parce que c'est rigolo, parce qu'on le disait en intro, du coup c'est le premier jeu qu'ils voulaient faire, et ça y est, il est sorti, tu vois. Ils ont vraiment fait le bébé qu'ils avaient envie de faire, et voilà, on se dit, pour des mecs qui kiffent les interfaces, qui kiffent l'audio aussi, parce qu'on en a pas trop parlé, mais le boulot aussi sur le sound design du jeu, il est quand même vraiment réussi. Il y a toute l'espèce de bruitage hein, autour de l'hexagone quand il nous parle, tu sais, quand ça valide ou que ça infirme une des réponses que t'as données. Il y a une espèce de ronflement un peu particulier qui est un peu hypnotique. Je trouve que ça marche super bien. Et puis voilà, tu sais, quand t'entends les respirations de Emma, quand t'es dans le vide aussi, on le ressent bien, le vide. On sent, tu sais, les petits bras de caméra aussi qui tournent. T'entends les petits zzzz comme ça quand tu fais des petits travelling. Et du coup, c'est vrai que on sent que ces gens-là, ils aiment certaines choses dans le jeu vidéo et qu'ils en ont fait un jeu vidéo. Et tu te dis, oui, est-ce que ça pouvait être mieux qu'une station spatiale? C'était probablement le setting idéal pour tout ce qu'ils avaient envie de nous faire vivre. Et ouais, je sais pas trop où ils vont aller après. Pour ma part, c'est vrai que moi, j'ai vraiment eu du mal avec le puzzle. Du coup, je pense que pour la suite, je sais pas si je retenterai l'aventure No Code. Je pense que leur jeu vidéo, c'est peut-être pas la sensibilité correspond peut-être pas aux miennes. Mais ouais, très très curieux de voir ce qu'ils pourront faire.
Et ce que tu dis, c'est intéressant parce que vraiment, tu vois, cette histoire de sensibilité, je trouve que ça colle bien avec ce qu'on essaye de décrire à chaque épisode de ce qu'est le jeu vidéo moderne aujourd'hui. C'est vraiment des jeux où il y a des gens, voilà, qui font pas forcément des choix très mainstream, qui assument complètement leur différence et leurs envies en disant, bah, nous, ce qu'on kiffe dans le jeu vidéo, c'est cette voie-là. A priori, pas grand monde a encore trop défriché ce terrain, donc ils ont de la marge pour continuer d'essayer d'explorer cette idée de jouer avec les interfaces, etc. Et on se dit, bah, tu vois, c'est ça que je trouve vraiment très cool avec le jeu vidéo récent, c'est cette richesse. À chaque fois, t'as l'impression de découvrir des nouvelles choses. À chaque fois que t'as l'impression d'avoir fait le tour, tu découvres un nouveau pan d'une exploration de jeu vidéo dont on n'avait pas encore, qu'on n'avait pas encore exploré ou qu'on n'avait pas. Moi, j'avais pas eu l'occasion de jouer un jeu qui s'intéressait à ce genre de délire. Et du coup, tu te dis, bah voilà, il reste toujours des choses à faire. On ne fait que élargir le spectre des possibles. Et moi, je trouve ça vraiment, vraiment très intéressant que ce genre de jeu puisse voir le jour. Bah là, pour le coup, on l'a dit, hein, c'est grâce à l'argent d'Epic. Mais justement, ce genre de projet-là, bah, est-ce que ça aurait pu exister il y a encore quelques années? Je pense pas. Et du coup, c'est cool, tu vois, de voir arriver ce genre de jeu-là, vraiment avec une proposition vraiment unique qui s'assume totalement, quoi.
Ouais, je renchéris un peu là-dessus. C'est vrai que moi, je trouve ça assez beau, limite, de voir des studios qui ont une personnalité comme ça et que cette personnalité, elle arrive à transpirer tellement concrètement dans ce qu'ils te proposent de faire que tu peux pas passer à côté. Tu peux pas te dire, ces gens-là, c'est plat, ils ont rien à dire, ils ont rien à faire. Non, tu sens que ces gens-là, ils ont quelque chose à raconter, ils ont envie de te le transmettre. Et ça passe vraiment par quelque chose de très expérientiel, quoi. C'est vraiment dans les doigts, dans l'interaction que t'as avec le jeu. Et ouais, je pense que c'est ça qui est fascinant dans le game design, tu vois. Me dire qu'il y a des gens qui ont envie de faire un truc qui me plaît pas forcément, mais qui est cohérent avec leurs envies, je trouve ça chouette de pouvoir me dire qu'il y a des choses comme ça qui existent. C'est rassurant, ça veut dire qu'on est bien, en fait, en ce moment. Et c'est cool, d'ailleurs, qu'on puisse en faire un épisode dessus, tu vois. C'est, encore une fois, on rejoint ce qu'on a dit. Bah, Max, il nous l'a suggéré, et c'est chouette de pouvoir, encore une fois, explorer le paysage vidéoludique, n'est-ce pas,
ça y est, il l'a dit.
C'est bon, on peut faire une émission au calme, c'est fini.
Et puis bah, j'espère que du coup on aura aussi peut-être un modeste rôle à jouer dans éventuellement le bouche à oreille qui peut entourer le jeu, parce que moi j'ai pas l'impression qu'il soit particulièrement connu, tu vois, qu'il ait dépassé ses sphères. Je sais pas à quel point est-ce qu'ils ont pu se vendre pour peut-être financer le prochain jeu, mais en tout cas voilà, le fait qu'on en parle, qu'on ait vu des gens là sur Discord qui y ont joué de façon aveugle, tu vois, sans savoir quoi que ce soit sur le jeu, et qu'on dit bah c'était cool, bah ça fait plaisir à voir. Et ouais, j'espère que ça pourra continuer.
Le jeu, ouais, pour l'instant, c'est vrai que c'est... bon, déjà, c'est pas si souvent qu'on fait des jeux qui sont aussi récents, ouais, entre guillemets, des jeux qui ont même pas un an, c'est pas toujours. Mais là, dans le cas de ce jeu-là, en plus, les jeux indés, en général, on prend des trucs qui sont quand même bien installés, qui ont déjà un petit peu leur statut, soit culte, soit qui ont bien tapé les millions de ventes. Là, Observation n'a aucun de ces statuts-là pour l'instant. On verra dans 2-3 ans, en fait, comment ça se... Ouais. Où c'est que ça se placera, quoi. Ça se trouve, le jeu, il aura touché beaucoup plus de monde et il sera... c'est un peu ce que tu nous disais finalement, Max, quand tu nous as parlé du jeu, c'est-à-dire, bah, en fait, un jeu SF vraiment qui essaie de faire de la SF un peu classique, tel qu'on peut voir en littérature, au cinéma, bah voilà, est-ce que c'est pas déjà un peu un indispensable quand t'aimes ce genre de délire? Bah ouais, complètement, c'est dommage de passer à côté, parce que c'est vraiment une expérience vidéoludique SF qui tire la route et qui est pertinent dans son temps. Et même le fait d'avoir fait le choix du photoréalisme, si parfois ça tient pas toujours debout, je pense que c'est un jeu qui va plutôt bien vieillir, parce qu'il y a tout ce côté interface porn qui est un peu intemporel, et leurs choix esthétiques qui sont quand même malins, et je pense que voilà, c'est un jeu qui pourra durer et être découvert encore dans pas mal d'années, et ça c'est rassurant pour eux.
Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est vraiment, tu vois, un autre pan de l'émission, enfin du game, que je trouve cool, c'est que à la fois on va essayer de se pencher sur des jeux presque incontournables dont on est obligé de parler à un moment donné, et à la fois bah, ça va nous donner, à la fois pour nous, mais également pour vous qui nous écoutez, l'occasion bah, d'explorer tous ces trucs du jeu vidéo qu'on voit aujourd'hui, et effectivement, comme tu le disais Hugo, de se rendre compte que bah, en fait, on est bien en ce moment, tu vois. Il n'y a pas de signe avant-coureur d'une espèce de blocage créatif, malgré le fait que ça fait des années qu'on nous parle de l'Indiepocalypse, etc. En réalité, j'ai l'impression que plus on continue, plus on découvre des nouvelles choses. Les jeux très récents m'ont plus marqué que les jeux d'il y a 20 ans, limite. Donc voilà, moi je suis vraiment content de pouvoir faire ce genre de petits épisodes plutôt sur des jeux comme ça, dont j'avais jamais entendu parler, de le découvrir, de découvrir un studio, de découvrir une nouvelle sensibilité. Enfin, tu vois, j'ai appris beaucoup de choses en préparant et en jouant à ce truc-là. J'espère que ça sera votre cas en nous écoutant, et que ça vous donnera envie, voilà, de faire le jeu et d'en parler un peu autour de vous, quoi.
Et bah du coup, je crois qu'on a tout dit, voilà, fin du game qui prend son rôle à cœur de faire découvrir des nouveaux jeux. Je sais pas, la prochaine fois, on sera quand même on va revenir sur des terrains un petit peu plus connus pour les prochains épisodes. Encore une fois, on remercie toutes les personnes qui nous ont rejoints sur le Patreon. C'est vraiment cool que vous nous permettiez de faire tous ces épisodes-là, soit quand il y a des gros trucs, des espèces de monstres à travailler comme The Witcher 3, ou essayer de découvrir des trucs un peu plus cachés. Donc merci énormément. On remercie également Sœur d'édition pour leur sponsor. Vous pouvez aller checker le bouquin sur Devolver. Encore une fois, c'est une belle recommandation. Le livre est vraiment chouette. On en reparlera d'ailleurs encore, bientôt de ce bouquin Devolver. L'arc Devolver chez Fin du Game n'est pas encore tout à fait terminé. On se retrouve, si tout va bien, je l'espère, dans 2 semaines. Si le Covid-19 ne vient pas nous agripper de ses doigts crochus. Jusqu'ici, tout va bien, le rythme est maintenu. Merci de nous avoir écoutés. Merci messieurs, encore une fois, c'était un plaisir. À la prochaine.
Salut. Ciao.